Et ensuite, Colette va répondre ou débattre, en tout cas,
tout en... écho.
Voilà. Je vais... Donc, quand même, représenter à nouveau, présenter à nouveau plutôt Colette Solaire, puisqu'il y a des nouvelles personnes qui se sont ajoutées par rapport à la matinée. Colette Solaire est psychanalyste à Paris, philosophe et docteur en psychologie. Elle a fait toute sa formation avec Jacques Lacan avant de choisir d'exercer la psychanalyse et de l'enseigner au Collège clinique de Paris, entre autres, puisqu'elle a eu encore une précédente expérience dans une autre association. En 1998, elle a été à l'origine du mouvement des forums du champ lacanien et fondatrice avec d'autres de l'International des forums du champ lacanien, et de son école internationale de psychanalyse. Elle a été auparavant membre de l'école freudienne de Paris, et après sa dissolution, elle a été directrice de l'école de la cause freudienne. Elle est auteure de plusieurs livres, j'en cite quelques-uns, « L'aventure littéraire ou la psychose inspirée, Rousseau, Joyce, Pessoa »,« L'inconscient à ciel ouvert dans la psychose »,« Ce que Lacan disait des femmes », Les affects lacaniens, Lacan l'inconscient réinventé, Lacan lecteur de Joyce. Elle a coécrit, entre autres, La psychanalyse pas la pensée unique que nous avons débattu ce matin. Je cite également quelques-uns de ses séminaires. L'inconscient, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous affecte? Qu'est-ce qui fait lien? Ce qui reste de l'enfance? Humanisation? Un autre narcisse? Et quelques autres séminaires que je n'ai pas repris. Voilà. J'en profite pour vous donner quelques sites internet qui, si vous voulez, être au courant un petit peu de nos activités, tant au niveau du Collège clinique de Paris ou d'autres zones que les nôtres. Vous avez le site internet cliniquepsychanalytique.fr, Champ Lacanien Net et Lacan Brabant BE qui regroupe. Nos activités. Voilà. Chère Colette, avant de commencer cet après-midi de travail, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est la deuxième fois que nous avons le plaisir de vous accueillir et de travailler avec vous ici au Forum du Brabant. La première fois, c'était en février 2015, et nos questions étaient suscitées par votre cours « L'inconscient, qu'est-ce que c'est ?» dont nous terminions la lecture. Nous vous accueillons cette fois-ci dans le cadre de deux nouvelles activités que nous avons mises en place, un atelier clinique et un séminaire théorique. Tous deux s'orientent du thème des collèges cliniques psychanalytiques de cette année, la clinique différentielle des sexes. De 2015 à 2018, le pas décisif pour notre forum a été celui d'inclure la clinique à la théorie et celui d'un retour marquant aux textes de Freud et de Lacan. Les collègues qui sont autour de cette table avec nous ont pris part, chacun à sa façon, à la question de la clinique et de la théorie analytique. Avant de leur donner la parole, je vais présenter le contenu de nos activités. D'abord, l'atelier clinique. C'est durant cet atelier que nous sommes mis au travail autour d'un cas de Freud. Nous y avons travaillé le cas du petit Hans. Nous avons travaillé également le président Schreber et le Mora. Pour chaque cas, nous avons pris trois séances de travail. Un premier temps consacré à la présentation du cas en partant des textes de Freud. Un deuxième temps de travail a consisté à comprendre le cadre par l'enseignement de Lacan. Et à partir de là, nous avons fait une troisième séance consacrée à la clinique d'aujourd'hui. À cette séance, un clinicien a présenté un cas clinique de sa pratique en rapport avec le cas de Freud. Nous avons pu ainsi travailler en trois temps, trois cas, un cas de phobie, de psychose et la névrose obsessionnelle. Chaque séance a été présentée par des personnes différentes, mais tout ayant une pratique analytique. Ont pris part à cet atelier avec moi les présentations du cas de Freud ou l'apport lacanien, Coralie Van Kerkhoven, Anaïs Bastide et François Longe. Ont assuré les présentations de cas issus de sa propre pratique, Perrine Panis, membre de notre forum, et moi-même. Ce travail à plusieurs que nous expérimentions avec enthousiasme à l'atelier, nous l'avons également mis en pratique au séminaire théorique. Ce séminaire a été tenu par Lucille Cognard et moi-même. Nous avons voulu que les membres du forum qui souhaitent faire des interventions interviennent au séminaire théorique et y contribuent par un exposé. Ainsi, outre Lucille et moi-même, on présentait une conférence sur la clinique différentielle des sexes, François Longe, Coralie Van Kerkhoven, Carole Desmarie, Perrine Panis et France Boucher. Ainsi, dans nos deux activités, nous avons pu mettre en place un modèle qui excluait la prise de la parole par un tout seul. Pas de un tout seul, mais des départs, des assorties liées par un transfert de travail. Nos espaces ainsi se rapprochent plutôt du modèle de cartel, du moins nous le souhaitons comme tel, où une place vide est préservée pour permettre à la parole de circuler entre nous et avec nos participants. Cette question de préserver une place vide dans le lieu de travail a été notre point d'appui. Nous allons continuer l'année prochaine sur le même modèle et encore une fois, nous orientons des collèges cliniques psychanalytiques de l'EPFCL, dont le thème sera la parole et violences que nous aborderons encore une fois par la théorie et la clinique. Alors, ça c'était une introduction à la table ronde. Donc je commence maintenant ma contribution à la table ronde. Vous ne l'avez pas reçu, mais je fais une petite intro avec une citation de Lacan que j'ai prise dans le moment conclus, où il dit « Le rapport de l'imaginaire, du symbolique et du réel, je ne m'y suis pas aventuré pour rien, ne serait-ce qu'en ceci, que la primauté du tissu, c'est-à-dire de ce que j'appelle en l'occasion les choses, la primauté du tissu est essentiellement ce qui est nécessité par la mise en valeur de ce qu'il en est de l'étoffe d'une psychanalyse. Si nous n'allons pas tout droit à cette distance entre l'imaginaire et le réel, nous sommes sans recours pour ce qu'il en est de ce qui distingue dans une psychanalyse l'abeillance entre l'imaginaire et le réel. Ce n'est pas pour rien que j'ai pris cette voie. La chose est ce qui et ce à quoi nous devons coller est la chose en tant qu'imaginée, c'est-à-dire le tissu en tant que représenté. C'est au point que l'objet dont il s'agit est quelque chose qui peut avoir plusieurs présentations. Moment de conclure, 1978. Alors, donc, nous clôturons aujourd'hui une année de travail sur la clinique différentielle des sexes et nous souhaitons partager nos questions et notre expérience avec vous. Mes questions vont porter sur la phobie en tant que carrefour des structures et sur l'invention de l'objet A par Lacan, et son impact dans la clinique psychanalytique. En d'autres mots, quel est l'impact de la découverte de l'objet A sur l'approche de la différence des sexes et sur la clinique et la conduite des cures? Qu'est-ce que la psychanalyse nous offre pour comprendre la différence des sexes et ses impacts? La question de la différence des sexes et donc de la clinique différentielle est au cœur même de la découverte de l'inconscient et donc au commencement de la psychanalyse. Très tôt, Freud va introduire la théorie de la sexualité dans l'étiologie des névroses et va forger les termes de névrose infantile présente chez l'adulte, qu'il aura extrait entre autres des analyses de l'homo loup et l'homo rat, mais aussi des observations d'analyses d'enfants telles que le petit Hans. Freud donne à la crise oedipienne le nom de névrose infantile et situe en son centre le complexe de castration et l'angoisse de castration. Il conclura que celle-ci est à l'origine du refoulement. Toujours selon Freud et à la suite de ses observations de la phobie du petit Hans, la névrose infantile est le temps qu'il faut pour la construction du fantasme. Lacan va définir la phobie comme étant le carrefour des structures. C'est une plaque tournante où se décide pour le petit sujet le choix de sa structure névrose ou perversion. La vraie fonction de la phobie, dit Lacan dans le séminaire d'un autre à l'autre, c'est qu'elle permet à l'objet de l'angoisse de substituer un signifiant qui fait peur. Lacan va placer l'angoisse en deçà de l'objet phobique. Il y aura dès lors une angoisse que Lacan dira qu'elle n'est pas sans objet, et ce n'est pas l'objet phobique. Pour Hans, par exemple, ce n'est pas le cheval qui est l'objet de l'angoisse. Le cheval est ici l'objet phobique, le par-angoisse, celui qui bouche le trou et qui signale le manque du manque. Il y a donc un autre objet qui n'est pas l'objet phobique. Lacan va situer au niveau de l'angoisse ce qu'il va appeler l'objet A. C'est également au niveau de l'objet A qu'il va situer aussi la division du sujet. Je le cite, c'est au niveau de l'objet A que peut se concevoir cette division articulable du sujet. Ce A, c'est cela qui vient se substituer à l'abeillance qui se désigne dans l'impasse du rapport sexuel. C'est là ce qui vient redoubler la division du sujet en lui donnant ce qui, jusque-là, n'était insaisissable d'aucune façon, car le propre de la castration, c'est que rien ne peut à proprement parler dénoncer parce que sa cause est absente. À sa place vient l'objet A comme cause substituée à ce qu'il en est radicalement du sujet. Et il ajoutera que l'objet A se pose comme absence. Cette castration, Lacan va l'appeler castration symbolique. C'est elle qui divise le sujet et le sépare pour toujours de l'objet de sa complétude. Le A se pose comme absence. Cette absence fait écho à l'absence de signification, à l'absence de représentation. Il y a un irréprésentable qui est en même temps un reste de jouissance. D'ailleurs, n'est-ce pas cela que révèle la phobie ? Quelle est la fonction de l'angoisse première qui se met entre le sujet et l'irréprésentable, sinon de venir border le trou d'une perte antérieure à l'entrée dans le langage, une perte antérieure à la division. L'angoisse vient en tant que barrière à la jouissance, là où aucun signifiant ne vient au secours du petit sujet, alors que le signifiant phobique va offrir au sujet la voie de la construction du fantasme autour duquel il va broder son roman familial. Lacan, dans le séminaire d'un autre à l'autre, dira que la division du sujet et l'objet A sont réciproques. Il avancera qu'il y a une division originelle appelée la spaltung, dont aucun effort ne pourra se faire rejoindre deux unités irrémédiablement disjointes. Il y aura d'un côté le sujet de l'inconscient, et de l'autre, l'objet A qui porte les marques des jouissances premières et qui en même temps va causer son désir. Le sujet, entrant ainsi dans le langage, ne pourra que désirer la jouissance perdue. Il en portera la marque, il fixera son désir et son symptôme, mais ne la rejoindra jamais dans la complétude rêvée, imaginée, fantasmée. Lacan dira ça encore autrement, la rencontre est toujours manquée, le rapport sexuel n'existe pas. Par la division originelle, la castration réelle, le sujet sera un manque à jouir. Par la castration symbolique, celle causée par l'entrée dans le langage, le sujet sera un manque à être. La première ouvrira le sujet vers le plus de jouir, alors que la seconde l'ouvrira grâce à la chute de l'objet, à la cause de son désir. À partir de la découverte de l'objet, la lecture de Freud et la clinique s'en trouvent modifiées. Les questions qui se posent par rapport à la clinique différentielle des sexes est celle de savoir ce qui permet à un sujet de se ranger du côté homme ou du côté femme. L'expérience nous montre que ce n'est pas le biologique qui fait l'homme ou qui fait la femme, ni le discours de l'autre parental, ni l'inscription à l'état civil. Il y a un décalage entre le sexe biologique et le sexe incarné. L'anatomie ne fait pas le destin. Que l'entourage nomme un petit être garçon ou fille n'est pas sans effet sur l'identification. Mais cela suffit-il à lui donner une identité sexuée ? Qu'est-ce qui est en jeu dans l'assomption de la différence des sexes qui permet au sujet de se ranger côté femme ou côté homme ? Dans le séminaire Angoisse, Lacan va dire que l'angoisse est la vérité de la sexualité. Et quelques années après, il va dire, au regard de l'énigme de l'angoisse, La relation signalée de danger est rassurante d'un autre à l'autre. Si nous repensons au cas du petit Hans, on pourrait dire que, avec Martine Ménès, que ce qui lui est arrivé avec la phobie est un merveilleux malheur, car grâce à la phobie, il parvient à se décoller des jupons de sa mère et à chercher sens à la jouissance. La construction par Lacan de l'objet A, qu'il a situé au centre du nuage des trois consistances imaginaires, symboliques et réelles, lui a permis d'expliquer que la jouissance du vivant inscriptible dans le langage est castrée. Elle l'a conduit à conclure au non-rapport sexuel. Y a-t-il des divergences ou des convergences entre l'identité sexuelle et la singularité de la jouissance et le choix du partenaire sexuel ? Que recouvre la formule de Lacan ? L'être sexué ne s'autorise que de lui-même, Lacan l'ayant utilisé et pour le parler et pour le psychanalyste.
Alors, on avait dit qu'on allait recueillir vos questions après chaque exposé. Questions ou observations, hein. Vos remarques après chaque exposé, oui. Avant de passer aux autres exposés. On est sur l'heure de la digestion. Hein. Réveillons-nous. Essayez peut-être de dire... Si vous avez saisi quelque chose, rien du tout. Quoi ? Les questions, les remarques.
Moi j'ai une question. Oui. Vous parliez de. Donc d'abord. Enfin, que biologique, ce n'est pas l'homme, la femme, la nomination aidait dans la chose, mais qu'il fallait ça ne suffisait peut-être pas non plus, et que l'ascension de son sexe dépendait peut-être de quelque chose en plus. Voilà.
Oui,
De quoi?
Oui, c'était une forme de question que je l'ai amenée aussi. Ah, oui, mais tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'un sujet se range du côté homme ou femme? Qu'est-ce qui fait qu'il accepte en fait qu'il accepte son sexe anatomique ou pas?
Oui. Et de ce qu'on en dit.
Ma question, en fait, c'est aussi par rapport à cette construction, à cette invention de l'objet A, de ce manque radical et logique en même temps que Lacan développe dans son enseignement. Est-ce que ça peut nous aider à nous expliquer comment un sujet se range dans un sexe ou dans l'autre, donc par rapport à la castration? En fait, c'est ça ma
c'est
question.
C'est ça votre question.
Oui.
Ah, d'accord.
Bon, voilà.
C'était votre question.
Oui, par rapport à la castration.
Ben, oui, d'accord. Je vais continuer à poser à la fin. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres...
Est-ce qu'on aura une réponse,
peut-être? Oh, sûrement qu'il faut avoir une réponse avant la fin de l'après-midi. Vous avez raison.
Il ne faut pas rester ineffable.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non? De la table ou de la salle? Non? Bon, donc on va passer à l'exposé suivant, comme on a dit, et puis après on va reprendre l'ensemble à la fin. à la fin des divers exposés. Parce que si on discute exposé par exposé, le dernier exposé va être squeezé forcément.
Bon. Je crois qu'il y aurait intérêt à poser une question claire au départ.
Serait-ce à dire que tout ça n'était pas clair?
J'ai pas dit que c'était pas clair. C'est difficile à entendre un texte quand même dense,
oui,
comme ça, c'est vrai. Pas évident, quoi.
Prenez
note.
Avec une sexualité déjà, enfin avec son sexe anatomique, mais pendant toute une période, quand même, l'enfant n'est pas dans un rapport imaginaire et de représentation à ce sexe. Qu'est-ce qui se passe donc en tant que objet perdu aussi, quelque part la vie, je pense qu'elle est une transmission de l'objet perdu à travers l'enfant. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette période-là, en tant qu'il serait dans une construction qui va précéder à son identification sexuelle, mais qui est quand même déjà la racine, le terreau de son être, de sujet, quoi.
Bon, comme question, d'accord.
On enchaîne,
oui. Oui.
Je crois pas que ça va être beaucoup plus ça. Voilà, donc avant toute chose, et comme on avait décidé d'ouvrir cette table ronde au public, je vais me présenter pour que vous ayez d'où je prends la parole. Donc je suis analysante, je suis membre du Forum du champ italien du Brabant, depuis peu je suis membre d'école, et donc j'ai travaillé cette année au sein de notre HEB clinique, le cas Schreber de Freud, et en lien avec ce cas, donc le texte de Lacan, une question préliminaire qui répond aussi de la psychose. Je travaille comme assistante en psychiatrie, et les apports de Lacan sont un outil précieux qui m'aide au pire à respecter le primum non nocere, et au mieux, j'espère, apporter quelques bénéfices thérapeutiques aux patients qui me consultent.
Vous ne parlez pas trop vite.
Donc, en 1956, dans une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, Lacan, après avoir évoqué deux places, celle de lecteur et celle de persécuteur, termine son texte en écrivant, donc je cite, nous laisserons là, pour le moment, cette question préliminaire à tout traitement possible des psychoses, qui introduit, on le voit, la conception à se former de la manœuvre dans ce traitement du transfert. Introduction, donc, à la conception qu'on doit se former de la manœuvre du transfert. On peut lire, me semble-t-il, à la fois l'effort et la prudence de Lacan. Effort qui va poursuivre tout au long de son enseignement pour élaborer la structure de la psychose et de ses phénomènes, ainsi que pour en saisir les conditions. Mais aussi prudence quant à la question du traitement qui reste un petit peu en suspens, puisqu'il nous dit que le transfert et ses effets sont encore à concevoir. Donc 10 ans plus tard, en 1966, dans un texte donc, qui s'intitule « Les présentations des mémoires d'un névropathe », après avoir avancé une définition plus précise de la paranoïa comme identifiant la jouissance dans ce lieu de l'autre comme tel, Lacan va terminer son écrit, et donc je cite à nouveau, par donc, « Le dit clinicien doit s'accommoder à une conception du sujet d'où il ressort que comme sujet, donc le clinicien, il n'est pas étranger au lien qui le met pour Schreber sous le nom de Fleisching, en position d'objet d'une sorte de monomanie mortifiante. Donc comment déplier cette phrase ? Lacan ajoute ensuite, il ne s'agit là de nul accès à une ascèse mystique, non plus que d'aucune ouverture effusive au vécu du malade, mais d'une position à quoi seule introduit la logique de la cure. Donc Lacan, là, me semble-t-il, distingue d'une part l'intérêt particulier, l'intérêt donc pour des raisons intimes, et pas par simple curiosité scientifique ou autre, du clinicien pour un patient, d'autre part l'érotomanie mortifiante, qui est elle du côté du sujet des psychotiques, et la position de l'analyste dans la cure, position dont il n'y a pas de recette, mais que seule la logique de la cure introduit. La question du traitement, donc, semble toujours en attente. Lacan se donne d'ailleurs 2 ans pour apporter à la question préliminaire sa pleine suite. Dans ce texte, il a dit ça. Néanmoins, 3 places sont désignées. La place de lecteur, auquel Schreber s'adresse, la place de persécuteur ou d'objet de l'érotomanie. Dans ces deux derniers cas, donc, place de persécuteur et d'objet de l'érotomanie, le sujet psychotique occupe la place de l'objet visé par la volonté de jouissance de l'autre. Mais dès lors qu'il y aurait une sorte d'inversion donc, de la structure du transfert, et que le transfert, on le sait, conditionne la psychanalyse, qu'en est-il de la cure des sujets psychotiques ? Je souligne les expressions « conception à se former de la manœuvre » et « s'accommoder à une conception du sujet ». Il s'agirait de se faire une conception du transfert dans la psychose qui soit solidaire au sujet psychotique que l'on traite. Alors, ensuite, en 1972, donc encore un peu plus loin, dans L'étourdi, Lacan avance l'expression « l'hors-discours de la psychose », le « hors-discours de la psychose ». Donc, ce qui est en cause, ce ne sont pas les 4 lettres, S barré, S1, S2 et A. Le sujet psychotique n'est pas hors langage, mais ce qui est en cause, c'est leur articulation. Quid donc de son inscription dans le discours analytique ? Alors, dans ce texte, Lacan va distinguer, là je reprends un peu ce que vous avez développé dans votre séminaire cette année, donc dans ce texte, Lacan va distinguer une seule fonction, donc, il appelle la fonction phallique, dans laquelle il dit tout sujet en tant que tel s'inscrit. Et donc, tout sujet tombe sous le coup d'un effet castration. Mais il va distinguer 2 voies logiques, donc la voie logique du tout et la voie logique du pas tout. Et il va situer l'effet de pouce à la femme de Schreber du côté du pas tout. Du côté, donc, où, faute de l'exception du dire que non qui existe, il n'y a pas de limite à la fonction. Dans ce texte également, il va distinguer 2 dimensions. Donc, celle qui fait Tom, c'est un néologisme, qui fait donc l'homme au sens générique, et la dimension qui pour toutes, qui fait du pour tout homme. Et donc, dans votre séminaire cette année, vous précisez que la psychanalyse procède au sens de provenir de, mais aussi de procéder par, de la première dimension. Donc, cette dimension, donc, des lieux dont ça se tome, lieux qui sont non pas effets de discours, mais effets de langage. Et vous précisez que donc, le semblant phallique, la vérité du pas de rapport sexuel, la jouissance phallique et le plus de jouir valent pour tous les parents. Alors, une fois encore, Lacan va terminer son écrit sur la question de l'analyse et du sujet psychotique. Donc, je cite, mon discours n'est pas stérile, il engendre l'antinomie, et même mieux, il se démontre pouvoir se soutenir même de la psychose. C'est une reprise de ma parole que naît mon Schreber, et même ici, bi-président, aigle à 2 têtes. Donc si Schreber n'a pas fait d'analyse, il a témoigné dans ses mémoires, dont la rédaction durera quelques 7 années, de son expérience et de son travail d'élaboration délirante dont Lacan a extrait la structure de pseudo-métaphore de suppléance. Reprenant l'interrogation de Lacan sur ce que nous sommes pour Schreber en tant que lecteur à qui il s'adresse, il m'interroge sur la fonction qu'a l'écriture dans la stabilisation, précisons-le temporaire, de Schreber. quelle homologie est différente avec la cure analytique. Donc je termine la citation. Mauvaise lecture de mon discours, sans doute, c'en est une bonne. C'est le cas de toutes, à l'usage. Donc la question du traitement reste paradoxale, mais se précise, au un par un et à l'usage. Lacan invite explicitement les analystes à ne pas reculer. Par ailleurs, toujours dans ce texte, il reprendra donc son concept du nom du père, dont la puissance, dit-il, est d'ordonner les trois champs du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Alors, à la fin de son enseignement, Lacan va redéfinir le nom du père comme étant une fonction du dire du nom, donc un dire de nomination. Avec la lecture qu'il fait de Joyce, il reprend sa question et éclaire autrement ce que devrait être la cure analytique. Dans votre ouvrage, donc Lacan, lecteur de Joyce, vous écrivez à propos de Joyce de la forclusion de fait à la suppléance de fait. Donc l'accent est mis sur une position subjective. Pourtant, l'opération effective passe par son art, art borroméen, puisqu'il raccorde l'imaginaire, par la production de ce comble du sens qu'est l'énigme, au nœud du symbolique et du réel qui est le propre de son écriture. Donc vous dites, c'est par son énonciation énigmatique que son art est borroméen. Au moment de Feinbaum's Wake, Joyce renonce à résoudre l'énigme de sa propre énonciation et il se fait représenter par cette énigme même. Il va s'en suivre une nouvelle inscription sociale et un changement subjectif. Vous soulignez qu'il y a solidarité entre l'acte du dire que vous appelez le dire négo du père et celui que son art porte et parfois il se fait saint homme en réussissant à boucher par son nom d'ennemi ce fondement de vide à quoi il avait identifié le père. Donc j'ai souligné tout à l'heure le terme de conception. Il renvoie à celui de concept. Et Lacan, donc dans le séminaire Amboise, dans la leçon du 19 juin 1963, donne une définition du concept comme un signifiant qui commanderait, conditionnel, donc qui commanderait s'il y en avait un, signifiant au réel selon sa totalité intime. Il dit, donc l'être humain croit atteindre au concept, c'est-à-dire qu'il croit pouvoir saisir le réel par un signifiant qui le commande selon sa causalité intime, ce réel. Dès lors, n'y aurait-il pas déjà, dans ce terme de conception, quelque chose à entendre de ce que Lacan dira de l'énonciation ? Quand il dit l'énonciation, c'est l'énigme portée à la puissance de l'écriture. Alors, il m'apparaît que si ma question de départ était « Y a-t-il une analyse possible avec des sujets typotiques ?» Les dernières élaborations de Lacan obligent à poser autrement la question. S'il me semble en tout cas que ce ne sont pas les catégories cliniques qui sont au principe de l'entrée ou non dans une analyse, est-ce la position subjective, éthique, singulière ? Et qu'est-ce que c'est tout ça ? Mais si le nom de symptôme peut advenir par le dire de l'analyse, la responsabilité de l'analyste, elle aussi, est engagée. Enfin, on le sait, Freud est entré dans la psychanalyse en écoutant les hystériques. Lacan, quant à lui, y est entré par la psychose. S'il a cherché tout au long de son enseignement la structure de la psychose, ne trouve-t-il pas finalement, exemple de Joyce à l'appui, une psychanalyse réinventée ? Et voilà. Donc, je pense ici à la phrase de Picasso dans ses propos sur l'art, quand il dit « je ne cherche pas, je trouve ».
Donc là, on est sur le thème « traitement de la psychose ».
Oui, donc voilà. Pas vraiment les thèmes annoncés.
Moi, je reprendrai dans ta deuxième... Donc je te cite, hein. Revenons à l'interrogation de Lacan sur ce que nous sommes pour Schreber en tant que lecteur à qui il s'adresse, etc. Donc la question du traitement de la psychose et notamment de la cure avec un psychotique. Donc là, quand je reprends ta phrase, il y a le lecteur lambda, entre guillemets, à qui il s'adresse. Moi, la question c'est, qu'en est-il quand l'écriture d'abord je reviens un peu en arrière, donc le lecteur lambda et l'analyste. Qu'en est-il alors de l'écrit, quand le processus d'écriture vient au sein même de la lecture adressée à l'analyste? Est-ce que tu as des cas cliniques où l'écriture intervient au sein donc, de la lecture? Pas au lecteur lambda, parce que finalement Schreber écrit au monde, mais là, adressé à l'analyste. Pardon?
Il écrit à la communauté.
Non, Schreber écrit au tribunal. Il écrit à un tribunal pour que puisse récupérer la gestion de ses affaires, puisqu'il a été dépossédé.
Oui. Mais il y a quand même cette position.
C'est un dossier juridique. Okay.
Mais de manière générale, qu'en est-il de l'écriture quand elle intervient au cours de. La fonction de l'écriture et la fonction de l'écriture dans une cure avec un psychotique.
Oui, d'accord,
ben,
c'est une question.
Oui, ça. J'aimerais rajouter une question. Tu parles de la structure de la psychose tout au début de ton exposé et je me faisais l'idée que la structure c'était quelque chose de généralisant, qu'on pouvait prédiquer sur tous au moins un petit peu quelque chose du fonctionnement et je me demandais si on pouvait le faire pour les sujets qu'on appelle psychotiques. Et puis après, je me disais, mais est-ce qu'avec ça, c'est pas plutôt le fait que tu voulais pointer que. Enfin, pointais-tu que tous les psychotiques se sentent objets de la jouissance de l'autre? Voilà, ça m'a interrogé ce point-là.
Non, je disais que Lacan allait chercher la structure, mais après, il a quand même la psychose du côté du patou.
Non, mais vous savez, cette question-là. Il y a deux usages de vos structures. Nous parlons des structures cliniques.
Oui.
Quand nous parlons des structures cliniques, c'est psychose, névrose,
perversion. Ah, c'est juste cet aspect-là. Voilà. Oui,
et
d'accord.
Et ça, c'est de ça qu'elle parle.
D'accord.
La structure d'un sujet psychotique en analyse.
Oui.
Après, évidemment, quand nous disons la structure, c'est quelque chose d'universel. La structure, c'est-à-dire l'effet de langage sur le parlant.
Oui, d'accord. Merci.
Mais enfin, la question demeure, la dernière question, est-ce que tous les psychotiques rentrent dans le schéma que Lacan évoque en 66
hein? Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez fait. Mais... La paranoïa, donc, c'est l'identification de la puissance au champ de l'autre. Est-ce qu'on peut dire, moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut appliquer ça, si ça rejoint ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut dire ça pour le mélancolique, par exemple, le même le maniaque, parce que c'est oui, quand il identifie la puissance au champ de l'autre, c'est pour la paranoïa.
Ça pose la question de la définition du terme paranoïa chez Lacan.
Tout à fait, hein, qui
n'est pas la paranoïa au sens psychiatrique.
Oui, la paranoïa chez Lacan, c'est quelque chose de très vaste.
Oui. Puisqu'il y a une phrase qui dit la psychose, virgule, la paranoïa.
Oui.
Dit pas la psychose, virgule, la schizophrénie. Donc. Là, on a un problème avec l'usage que Lacan fait du mot paranoïa, qui n'est pas la définition stricte qu'on trouve dans les manuels de psychiatrie.
Mais dans la paranoïa psychiatrique, on sait plus ça. Cette définition 66 convient.
Oui, aussi. Oui.
Donc, la question que je me pose, ça va aussi pour les contomanies, par exemple.
Oui.
Mais est-ce que pour la manie et ou la mélancolie, oui.
Non, d'accord.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres points à débattre?
Oui.
Alors, à propos de Schreber, hein, tu parles de la fonction de l'écriture dans sa stabilisation, en précisant bien qu'elle a été temporaire, hein, effectivement. Et puis, bon, c'est des notes que j'ai prises comme ça, assez au vol, mais un peu après, tu parles d'un art broméen. Est-ce qu'on peut dire que le texte que nous connaissons de Schreber relève de l'art broméen, où j'ai mal sauté une étape, c'est ça?
Je n'ai pas dit que le texte était pour moi, en tout cas.
C'est ça que je me posais, en tous les cas.
Le texte n'est pas borné. L'art est borné. C'est la thèse de Lacan. Textuel.
Et chez Schreber?
Non, pas. Non.
Qu'en est-il chez Schreber?
Joyce. J'allais un peu rebondir sur la même question. En fait, tu parles justement de Joyce et clairement, enfin, Alan Swig, c'est l'énigme en tant que telle portée au nu. Est-ce que c'est une fausse question. Est-ce que Schreber est-il dans l'énigme?
Dans l'énigme.
Un moment énigmatique, en tout cas. Ça, Lacan, il en parle plus clairement.
Oui, il connaît l'expérience énigmatique, mais est-ce que son texte est...
Non,
c'est ça. Voilà, c'est simplement ça. C'est parce que c'est le lien entre...
D'accord. Bon, on continue, hein.
On passe à autre chose.
Oui, c'est ça qui a pris. Les exposés sont très variés.
Alors d'abord, François Longe, je pratique la psychanalyse de la Vierge. J'ai mon forum du Maroc. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'homora avec cette question. Le désir impossible de l'homme au rat et la fonction père. Que retenir aujourd'hui du récit freudien? Alors, le cas de l'homme au rat, le patient illustre de Freud, qui a été étudié cette année au cours de la clinique du Forum du Brabant, constitue un précieux témoignage de ce que l'on pourrait appeler les conditions paternelles qui, dans le mythe individuel, le mythe familial d'un homme, lui permettent de soutenir son désir, de faire une femme la sienne, ce qui implique, à lire ce texte, la problématique de l'attribution et de l'appropriation phallique, contestable, voire récusable. Effectivement, le récit, tel qu'il est rapporté par Freud, nous renvoie bien aux questions des origines que se pose un fils, plus particulièrement du choix du partenaire du père, de ce qui fait union entre père et mère, et ainsi de la cause du désir qui unit un homme à une femme, au fond, comme tout contemporain. Ainsi, s'il y a ce que le sujet élabore, construit, scénarise, quelles qu'en soient les conjonctures, là où déjà avec Lacan, et encore plus aujourd'hui, sans référer exclusivement au père édipien, se révèle pour le moins contestable, si pas récusable, s'en sont dégagés d'abord sa réduction à l'exception logique, sans norme édipienne, c'est la seule logique qui commande, puis une révision par l'acte, par le dire qui nomme. Le père, c'est le dire qui nomme, qui noue en l'occurrence le couple sexuel, un homme et une femme. Couple sexuel qui se noue sous de multiples variétés, on le sait aujourd'hui. Ceci implique donc naturellement, en tout cas pour moi, la question de l'attribution phallique et l'interrogation de savoir jusqu'où devons-nous reconsidérer, dans les configurations cliniques d'aujourd'hui, ce qu'est Lacan stipulé dans les formations de l'inconscient en 1958. À savoir que pour l'avoir, le phallus, il faut d'abord qu'il ait été posé qu'on ne peut pas l'avoir. Que cette possibilité d'être castré est essentielle dans l'assomption du fait d'avoir le phallus. C'est là ce pas à franchir. Et que c'est là que doit intervenir à quelque moment, efficacement, réellement, effectivement, le père. Dans votre séminaire d'humanisation, page 103, Vous dites que le père de RSI, à propos de la fameuse leçon du 21 janvier, ressemble étrangement au père classique, indissociable du couple conjugal de la famille. Effectivement, c'est le père de la filiation et le père du soin paternel. Le père, perversement orienté, faisant d'une femme objet A, cause de son désir, le père qui occupe donc une position libidinale. Alors, si l'on revient au cas de l'homora, nous avons effectivement affaire à un homme pour qui le désir sexuel apparaît comme un fameux embarras. S'il vénère sa dame, elle ne semble pas trop agalmatique, ni Mädchen, ni Fräulein. Autrement dit, elle n'apparaît pas, ce qui est pour lui cette brillance phallique de l'objet à cause du désir, qui ne s'incarne qu'à partir de la castration, du manque assumé du partenaire masculin, problème pour l'obsessionnel. Or, on sait que l'homme sexuel, l'homme qui en l'occurrence se noue à une femme, et qui la fait sienne dans les conjonctures du désir, ce qui n'est ni le cas de Ernst Langer, donc le mot pas, mais également ni de son père, dont la cause de son désir dans son mariage apparaît être plus l'argent que la mère du patient. Il ne se soutient qu'au prix du règlement d'une dette, d'un laisser-choir sur sa jouissance, question qui est centrale dans le cas de l'homora. Elle pourrait l'être encore plus aujourd'hui, mais l'est-elle toujours et sous les mêmes modalités? Question. À lire le compte-rendu de Freud, on pourrait dire qu'un homme ne peut avoir accès à son désir et le soutenir librement que s'il hérite de son père le symbole d'une perte, d'un renoncement, la marque qu'il a consentie lui-même aux conditions du désir. Autrement dit, que si le père réel vient occuper place symbolique et qu'en s'acquittant de sa division, notamment en se nouant sexuellement avec une femme, il permet la passation du phallus, ce qui ferait de lui un père libre. La constitution du désir de l'obsessionnel, comme impossible, indique un aléa, alors je ne sais pas si on peut dire un ratage, particulier dans la transmission phallique et dans l'inscription phallique. Ce qui, à lire Freud, maintiendrait en place le père réel, le père jouisseur, auquel se confronte l'homora au détriment du désir d'une femme. Certains ont soutenu, peut-être à tort, et j'y ai adhéré, que cet envahissement par le père jouisseur, trop réel, n'est pas sans rapport avec la difficulté de beaucoup d'hommes modernes dans leur sexualité. Toujours est-il que le père de la réalité de l'homora, s'il se montre dans le récit sur un versant bien réel, dans son effet persécutant et envahissant, il apparaît sous la forme d'une volonté qui commande, il n'apparaît pas comme permettant au fils l'accès au désir sexuel. C'est même le contraire. Celui-ci restant fixé sur le signifiant d'une jouissance sexuelle innommable, rat, sans doute, faute d'une transmission phallique opérante. Tout ça à l'épreuve. Le cas de l'homora n'illustre-t-il pas de ce qui peut toujours être attendu de ce qui tient lieu du père de la réalité? Qu'il soit un père réel qui répond à l'appel par le père symbolique en payant sa dette, son dû. À défaut, si on a souvent parlé de psychose dans la descendance des pères manquants dans leurs obligations symboliques, ici, on assiste au déploiement chez un fils de toute l'économie désirante de l'obsessionnel. La part prise par le sujet à la jouissance du père et à sa faute, représentée ici par le signifiant rat, conduit ici à l'annulation du désir de l'autre, du grand autre, vécu sous le mode d'un commandement trop proche d'une volonté de jouissance. C'est assez parlant de nos jours. L'obsessionnel, dans son mouvement vers le désir, détruit le désir de l'autre, dit Lacan. Le désir de l'obsessionnel est l'équivalent de l'annulation du phallus dans l'autre et dénégation du désir lui-même. Alors, si annulation n'est pas forclusion, on ne peut rien annuler qui ait tout de même été inscrit dans le symbolique, on voit une fois encore, comme Lacan le stipule tardivement dans RSI, à quel point il ne faut pas que l'exception que constitue le père traîne chez n'importe qui pour constituer modèle. C'est bien le père modèle qui fait question à l'homora, là où il est appelé à reproduire les mêmes épousailles que celui-ci. Et qu'un père ne peut être modèle de la fonction qu'à en réaliser le type. Et ce, en ayant le symptôme père, en se soutenant de sa perversion. Au-delà de ce que le sujet construit, mythifie, il y a ce que Lacan a appelé dans le mythe individuel et névrosé, toujours à propos de l'homme ou rat, la constellation du cas, qui a présidé à la naissance du sujet, à son destin, presque à sa préhistoire, à savoir les relations familiales fondamentales qui ont structuré l'union de ses parents. Alors, ça reste très édifiant, toutefois, avec ce que Lacan avait appelé à l'époque « constellation du cas », ne pourrait-on pas tout de même, à la lumière de ce récit qui date de 1907, éclairer, revoir, reconsidérer ce que j'ai appelé les conditions paternelles, aussi singulières soient-elles ou qualifiées de soins de nomination, qui autorisent aujourd'hui un homme à humaniser son désir, en faisant ou non d'une femme sienne.
Même chose que précédemment. J'ai une question pour Marc.
Que faire de l'intuition freudienne?
Oui.
Est-ce qu'on voit là?
Madame, dans le fond.
Oui, j'ai une petite remarque. Je trouve que c'est très joli, soin de nomination.
Ce n'est pas moi.
Je crains que ce ne soit de moi. Ce n'est pas écrit comme tel par Lacan. Lacan a écrit soin paternel.
Ah ouais.
Donc soin paternel. J'ai cherché à comprendre ce que pouvait dire vouloir dire soin paternel, qui par définition donc doit se distinguer du soin maternel, qui est le soin du corps et de la parole. Donc je me suis dit, hypothèse, que c'était un soin de nomination. Et ça tombe bien, puisqu'après, il nous dit le nom du père, père du nom. Alors, donc, oui, je vous demandais mise à jour du cadre de Mora.
Et oui, parce que moi, ça m'a quand même parlé un peu. Hein, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait ça à propos de tout ça?
On sent bien que ça vous parle.
Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais ça m'a parlé. Donc, de l'embarras, effectivement, son embarras, avoir un désir impossible, et de ce qu'on tiendrait ou pas, avec tout ce qu'on a pu dire, effectivement, la remise en question de la fonction phallique, hein, qui n'est plus tellement, en fait, une d'un de l'avancée, plutôt attribuée à l'effet de la parole qu'à la fonction, plus qu'au père, alors qu'ici, on a quand même un superbe cas, alors évidemment, c'est le récit freudien. Mais c'est ce qu'on disait aussi, c'est un mythe familial. Mais néanmoins.
La question se pose absolument, parce que 1907, Lacan, Freud écrit ça en 1907, le désir impossible chez Lacan, c'est très tôt, c'est pas la fin. Donc, c'est vrai que nous sommes confrontés à la nécessité d'ajuster les commentaires de ce cas aux élaborations postérieures de Lacan sur la fonction, la différence des sexes, le phallus, le père. Je trouve la question extrêmement pertinente. Est-ce que vous avez des commentaires ou des points? Oui.
En entendant ce discours sur l'Abora, pour qu'on continue. Pour moi, nous sommes plus dans les lignes de son désir. Et pour s'il devait lire lui-même le compte rendu de Freud, est-ce que ça le réveillerait éventuellement? C'est la question que je me pose.
Il faudra voir ce qu'il a entendu, lui, effectivement, de ce qu'il a transmis à Freud dans le transfert. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le bourrage a fini par se marier.
Oui, il est mort à la guerre.
Oui, mais avant, non?
Non.
Il est mort à la guerre, ça je sais bien.
Il n'a pas marqué la vie.
Il n'a pas. Il y a eu quelque chose. Écoutez, c'est
pas venu jusqu'à mes oreilles.
Non plus.
Si c'est arrivé, il va falloir faire une recherche, mais...
Ou bien c'est le Moulou qui est mort à la guerre.
En tout cas, la cure a permis quand même à l'Omora de se libérer
de son obsession. C'est impressionnant, le cas de l'Omora, au moins pour une chose, indépendamment de la question que vous posez, neuf, vous voyez, l'obsession de l'Omora. La prégnance de cette obsession, 9 mois d'analyse, l'obsession disparaît.
Une analyse avec des séances quasiment tous les jours. Hein, dans les carnets, mais les carnets, c'est extraordinaire.
Comme
les carnets. C'est
à l'époque. Oui. À l'époque, il y avait une analyse tous les jours, une séance tous les jours, 5 jours par semaine.
Et 6 heures.
Plus d'une heure.
Oui, alors à propos de l'Omora, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on a des carnets de preuves, séance après séance, ces notes.
Oui.
C'est vraiment très intéressant.
Bon, on passe, si vous n'avez pas de questions, parce qu'il faut aussi écouter tout le monde, on va passer qui c'est qui parle après.
C'est Coralie. Oui, Coralie. C'est toi. Alors, eh bien, moi, je vais passer du père à un autre point, entre guillemets. En fait, mon questionnement s'inscrit dans la continuation du séminaire théorique sur la clinique différenciée des sexes. Et au cours de celui-ci, nous avons eu l'occasion de travailler donc le ravage. Alors, le ravage, c'est, phénoménologiquement, la relation amour-haine entre la mère et la fille, entre la femme et leur compagnon, les relations, ce qu'on dit un peu vulgairement parlant, les relations donc toxiques. Et qui se base soit sur la réponse qui n'advient pas donc de la mère, c'est une version très freudienne, ou une version aussi de l'absolu de l'amour. Alors, c'est assez amusant parce que quand on parle donc de ravage, ça parle tout de suite aux gens, parce que ça paraît à la fois très évident, mais aussi, ça paraît aussi assez fascinant. Ceci dit, alors pour la petite histoire, c'est un thème que j'avais déjà travaillé il y a quelques années, mais en le retravaillant, il y a évidemment d'autres questions qui sont apparues, et une évidence, il n'en était plus autant. Alors la première chose qui m'a frappée, et c'est notamment, en lisant ce que Lacan disait des femmes, c'est plutôt la nuance dans les affects qui a apporté un phénomène qui, a priori, s'impose dans l'excès. Donc quand on regarde le ravage, alors on pense évidemment aux écrits de Marguerite Duras, d'un barrage contre le Pacifique, etc., alors, tandis que dans ce que Lacan disait des femmes, les effets sont plutôt multiples et sur une échelle qui est assez variable et très différente. Ils vont du plus léger déboussolage à l'angoisse profonde, en passant par tous les degrés de l'égarement et de l'évitement. Alors, c'est une variabilité d'effets ou d'affects qui m'a semblé tout à fait étonnante en regard d'un affect dont l'étymologie renvoie à quelque chose de très excessif. Quand on revoit l'étymologie en tant que telle, ça renvoie à transporter d'admiration et de joie, mais aussi à dommages faits avec violence, accomplis par les eaux et les tempêtes, et puis alors désordre que les passions causent. Et puis alors, on trouve aussi l'action de piller. De
piller.
Du pillage.
Pillage.
Donc, c'est vraiment donc cette variation qui m'a semblé étonnante, parce que cette nuance entamait quelque part la massivité et la religion du ravage, la religion que je mets évidemment entre guillemets.
Alors, cette nuance, si elle est nécessaire, est-ce que elle ne dilue, c'est des questions, hein, elle ne dilue-t-elle pas la spécificité du ravage, voire en quoi est-ce qu'il y aurait une spécificité du ravage? Est-ce que le ravage est-il quelque chose de la fête, de ce qui ne trompe pas à l'instar de l'angoisse? Alors, je vais sur un autre versant, parce qu'il y a aussi l'acception qui renvoie à transporter d'admiration et de joie. Donc, laisse à penser que le ravage peut être sublimé. Sommes-nous donc dans ce versant, dans le mysticisme, alors que ce serait évidemment nos mystiques contemporaines. C'est Hildeburg von Bingen, ça remonte. Hein. Alors, pouvons-nous nous dire par ailleurs que le ravage participe en quelque sorte d'une exacerbation du sentiment de la vie, puisque quelque part l'existence est en question. Mon deuxième point porte le ravage comme conséquence du patou et de la demande, entre autres, de l'absolu de l'amour adressé à l'autre et de la réponse qui n'advient pas. Alors,
ma formulation n'est pas tout à fait juste, je relis ça hier, mais est-ce que le ravage dépend-il nécessairement d'autrui, de l'autre et de l'autre porté en tant qu'autre ? Qu'en est-il quand la femme se prend pour son propre objet d'affection ? Quand se ravage-t-elle elle-même ? Vise-t-elle l'objet infâme qu'elle est ? Sorte de lien avec le masochisme primaire. Alors, y a-t-il un lien structurel dû au patou féminin, donc d'une plus grande propension à la mélancolie ou à la douleur d'exister ? Et y aurait-il un défaut d'assise narcissique dû au patou féminin ? Alors, toujours dans ce cas de question de la demande adressée à l'autre et de la réponse qui n'advient pas, que cet autre soit incarné dans la mère ou dans le compagnon, pouvons-nous dire que dans le cas du ravage mère-fille, femme-compagnon, il y a quelque chose de plus vivant, même s'il touche parfois à des formes pathétiques excessives, de plus actif et désirant. Et ce, à la différence de la fiction, où il y a plutôt une panne du désir et de l'immobilisme reproduit sur lui-même et qui ne surgit pas dans le rapport à l'autre. Alors, mon troisième et dernier point portera sur l'actualité du ravage. Est-ce que les modulations infléchies ou pas par la contemporanéité, le déclin de l'idéal ou du modèle imaginaire de faire l'homme, les nouvelles configurations conjugales et familiales, induisent-elles des autres modalités du ravage ? Et de manière, j'irais, plus structurelle, est-ce le ravage est-il spécifiquement réservé à la, entre guillemets, la femme ? Pourquoi l'homme ne serait-il pas également affecté ? Puisque le couteau, finalement, ça concerne un peu tout le monde. Voilà.
Voilà. Est-ce qu'on peut associer le ravage comme une jouissance de la néantisation ? Je pense à votre ouvrage aussi sur ce qu'est la candidature des femmes, vous en parlez de cette néantisation. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous en parlez en termes de ravage à ce moment-là.
Non.
Mais je voudrais poser.
Oui, j'ai noté votre question.
Moi, j'aimerais interroger le fait que tu...
Je ne pense pas que jouissance, la néantisation, parce que le ravage porte justement sur la question de l'être de la femme. Oui.
La question, excuse-moi, l'articulation effectivement entre ravage et angoisse, touche à l'être. Disjoindre, ravage et angoisse.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est, je dirais, l'échelle de variabilité des affects. Or, dans l'angoisse, il y a quelque chose de l'ordre, si je puis dire, je peux me tromper, de la certitude qui s'impose, ça touche à vous plus intime du sujet. Et c'est, moi, ce que j'interroge, c'est vraiment la nuance que vous apportez.
Oui, je ne sais pas si c'est à propos du ravage que je l'ai apporté. Je crains que...
Oui.
Bon. On va parler de ça après.
Ben, je crois que c'est dans la lignée, ma question, c'était par rapport au fait que tu as dit d'un affect qui ne trompe pas. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans le ravage d'un affect qui ne trompe pas ? Et s'il ne trompait pas, qu'est-ce qui viendrait pointer comme implication du sujet ?
Je me posais la question, le ravage est-il un affect ?
Oui, j'ai court-circuité, mais oui. Je me l'étais posé. Oui, tout à fait.
C'est ça ? Est-il quelque chose de l'ordre de l'affect ?
Oui.
Bon, on continue. Il nous reste qui nous reste Lucille. Oui. On va écouter Lucille. Hein.
Bon, j'y vais. Bah, comme Naïs, je faisais une petite introduction pour vous dire d'où je parle. Enfin, je suis informaticienne, je suis encore en analyse, donc je parle surtout de cette place-là. Bon, accessoirement, je voulais vous dire que je suis membre des forums depuis 2006. C'est-à-dire peu de temps après que j'ai commencé une analyse, parce que pour moi, il y avait une nécessité de comprendre la découverte freudienne. Et puis, par truchement, eh ben, j'en suis venue à étudier la psychanalyse lacanienne. Donc, c'est de là que je vous parle. Alors, pour contextualiser mes questions, il y en a deux. Je voudrais vous faire quelques rappels. Donc, c'est un peu un fil que je vais essayer de tirer. Il y a deux questions qui vont s'insérer. J'ai essayé d'être basique pour me faire comprendre. Donc, la psychanalyse met à jour le fait qu'il n'y a qu'un seul signifiant dans le langage qui rend raison de l'attirance des corps sexués. L'histoire de l'humanité est telle que les discours ont creusé une place à part à ce signifiant bien spécial qui a surgi et qui anime le rapport de chacun au langage et qui intervient dans les liens sociaux, même ceux à deux, et même à deux, même que ce signifiant-là est au cœur du lien analytique, vu que c'est le rapport au langage. Okay. Ce signifiant, c'est le signifiant phallique, qu'on appelle aussi le phallus. Donc, premier rappel. Les discours attribuent le signifiant phallus aux hommes, de ce qu'ils ont le pénis, tandis que les femmes en sont dépourvues. Cette attribution, je l'ai rajoutée au fil de la discussion, là, cette attribution préexiste au sujet par le discours des parents et de la société. C'est un bain dans lequel le sujet est. Alors, je soulève ici ma première question, qui concerne les vierges de Jurée d'Albanie, que France Boucher, qui est ici avec les cheveux roux, dont elle nous a parlé samedi passé dans le forum, et ça a animé beaucoup les conversations. Les Albanais suivent un code coutumier très ancien qui s'appelle le kanun, qui supplante tout autre réglage que la société moderne aurait pu ajouter, comme le communisme d'Enver Hoxha n'a pas du tout entamé ce réglage. Et dans ce code-là, quand il n'y a pas de descendant mâle, il est possible à une femme de gérer l'héritage de la famille d'une façon circurieuse, que je vais un peu détailler, qui est telle que je me suis demandé si ce n'était pas là une façon d'attribuer le phallus à un sujet qui était dénué de pénis. Alors, c'est juste une hypothèse que je soumets. Et on aurait là un cas où il n'y a pas superposition entre pénis et phallus. Alors, l'exposé, je m'avance. Il y en a d'autres, oui, j'imagine. Bon, ok, d'accord. Ma culture n'est pas assez large. Bon. L'exposé précis que France a fait a montré qu'il s'agit d'un changement de sexe vraiment radical dans la société. La décision est prise, certes, à des âges variables pour ce sujet, mais à vie, avec un consentement de l'intéressé et parfois son initiative. Et ça se concrétise par le fait que la personne doit masculiniser son nom et elle doit faire un vœu de chasteté qui est inviolable. Et puis en pratique, l'intéressé adopte une posture d'homme. Elle nous a montré des photos, c'est vraiment des hommes. Elle nous a fait des récits, c'est vraiment des postures d'hommes, des mises en scène d'hommes. C'est assez frappant. Alors, la loi du kanun ne semble pas autoriser d'engagement libidinal social autre que comme porteur du phallus. Parce que la parole donnée est sacrée et il y a une règle du sang qui conduirait au meurtre si le vœu était violé. Donc, c'est puissant. Alors, le signifiant maître du pouvoir, ici qui est de gérer les terres et les biens de l'héritage, semble se confondre, mais c'est peut-être quelque chose dont j'hésite un peu finalement, avec le phallus, comme dans les sociétés patriarcales, mais alors sans le pénis. Enfin voilà, j'ouvre la question. Avec aussi peu d'éléments et surtout sans avoir des sujets en cure, où là on voit vraiment l'engagement libidinal, c'est incorrect de s'avancer à en dire davantage. Mais, Solette Solaire, si vous aviez quelques remarques à faire sur le sujet, on en serait ravis, parce que, voilà, la question nous a animés, puis l'époque interroge vraiment la guise de transgenre. Voilà. Okay. Donc, je reprends le fil de mes rappels, maintenant, pour mon autre question. Elle tient à la fin de l'analyse. Donc, dans une société, comme je l'ai déjà dit, il y a les porteurs du phallus et les dépourvus. Donc, ça donne, dans le lien social, une identité sexuée a priori. Le terme a priori, c'est Colette Solaire qui l'a repris dans son cours, qu'elle a elle-même extrait du texte « L'étourdi » de Jacques Lacan. Donc ça donne dans le lien social une identité sexuée a priori, mais c'est a posteriori que l'engagement libidinal s'effectue quand le sujet engage vraiment son être de jouissance. Alors, Lacan a introduit ce qu'on appelle la fonction phallique pour rendre compte de cet engagement. C'est au fond, si je le résume, ce qui permet au sujet de conjoindre sa parole et sa jouissance sexuelle. Et, en plus, quand cette fonction s'articule dans un discours, elle ouvre la possibilité de faire lien avec des partenaires. Et, je reviens à la fonction phallique, Lacan distingue une façon homme et une façon femme de s'inscrire dans la fonction phallique. Pas tout et tout phallique. Cette façon de s'engager se fait par ce que Lacan nomme le dire du sujet. C'est une vaste question, mais j'essaie d'aller à l'essentiel d'un fil. La façon homme inscrit la jouissance sexuelle pleinement dans la fonction phallique. Et le dire de l'homme fait que toute sa jouissance est prise dans le langage, est striée par le langage, et fait que son désir marche à la castration, due au langage, avec la jouissance de l'objet A et du symptôme à la clé. C'est ce qu'on appelle la logique du patou. Elle repose sur un dire qu'on appelle le dire que non.
La logique du tout.
La logique du tout. Ah bon ? Pardon. Alors, la façon femme, elle traite la jouissance phallique sur deux axes. Tantôt dans la phallique, dans une inscription phallique, quand ce sujet se propose d'être dit femme pour un homme, quand elle investit son corps dans des réalisations concrètes du social, avoir un homme, avoir un enfant, se faire reconnaître dans son travail, par ses réalisations, etc. Mais tantôt aussi, elle retranche sa jouissance de ce phallique. Et là, ça ouvre aux questions très compliquées de la jouissance haute et de l'appel à S de grand tabaret. Ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'on a affaire à une autre logique de dire quand cette jouissance passe au mot, et ce dire est dit par Lacan inconsistant, incomplet, et on parle là de dire pas tout. Alors, je m'interroge sur l'articulation des deux logiques, si j'en aime sujet. Un sujet côté femme peut-il s'impliquer à partir d'un dire consistant et à partir d'un dire inconsistant. J'ose pas dire, peut-il être habité en même temps d'un dire tout phallique et d'un dire pas tout phallique. Absurde, n'est-ce pas? Mais c'est bien au fond ma question. Ou bien, est-ce qu'un sujet n'a qu'un seul type de dire possible? Alors, s'il y a deux types, est-ce en fonction des liens dans lesquels le sujet s'engage avec sa jouissance? Qu'il l'investit libidinalement, qu'il s'investit libidinalement tantôt du côté du dire tout, tantôt du côté du dire pas tout. Et la clinique des cures atteste qu'il y a des pas toutes qui terminent leur analyse. C'est là qu'est ma vraie question en fait. Malgré ce dire pas tout, qu'est-ce qui peut leur donner une assise d'identité à la fin qui fait dire j'ai terminé? Parce que la fin d'analyse est logique, n'est-ce pas quoi? La cure analytique ramène dans la balance la jouissance réelle du symptôme, celle de l'inconscient réel, que Colette Solaire a extrait cette dernière décennie et qu'elle déploie dans ses livres. Cela permet au sujet de prendre en compte cette jouissance de l'inconscient réel comme étant propre à son identité de sujet parlant. Cela lui permet de balancer d'une façon satisfaisante, enfin, l'embrouille entre la recherche des plus de jouir, de la vérité, etc., et la jouissance réelle du symptôme, qui au début faisait problème. Mais cette jouissance de symptôme, d'être capitonnante, me semble reposer sur une logique finie. Alors comment ce point logique de fin de cure peut-il être atteint quand la logique du dire pas tout d'une femme est incomplète, laissant toujours un horizon ouvert et large? Je vais rajouter quelque chose que je n'ai pas écrit dans mon texte, c'est qu'il me semble que ce n'est pas correct de dire qu'il y a deux dires. Je pense qu'il n'y a qu'un seul dire, et c'est un terme que j'ai attrapé, je ne sais plus, récemment, peut-être dans l'idée des voies du dire. Alors il y a sans doute deux voies du dire. Mais en fait, ce que j'interroge, c'est la sortie de l'analyse d'un tel sujet, J'ai l'impression que ça ne se fait pas par identification aux symptômes, parce que le symptôme, comme capitonnant, serait mis en question, mais par une identification au dire. Et pourquoi ? Parce que c'est ce dire qui ferait plutôt la satisfaction entre les deux types de jouissance, qui est celle prise du langage et celle prise à l'aspect réel des marques du langage sur le corps. Enfin, voilà.
Justement, par rapport à cette idée de notion phallique qui revient sur le pénis, etc., moi, ce que j'avais pour comprendre, c'est que précisément, le phallique ne recouvre pas systématiquement le pénis. Parce que précisément, il me semble que ça n'identifie pas la même chose. Il me semble que le phallique n'identifie pas une identité sexuelle, mais bien une idée de vide ou de plénitude, en quelque sorte. Et que justement, cette idée de phallique. Enfin, à partir du moment où il y a un langage, il y a une limitation de la jouissance dans le sens où il y a l'usage d'un mot et où donc on retranche une partie du réel. Et il me semble que le rôle de la mère, justement, qui ne serait pas de l'ordre du phallique, ce serait justement d'indiquer ce vide et d'indiquer cette limitation de la jouissance. Mais je pense que le phallique ne recouvre pas forcément et systématiquement l'identité sexuelle. Enfin, c'est comme ça que je comprenais les choses.
Que les mots ne recouvrent pas tout à fait les choses, je ne le situe pas au même niveau que le patou phallique. Je le situe plutôt au niveau du fait que nécessairement la parole est castrante. Nécessairement, il y a du midir, comme on dit. Nécessairement, il y a quelque chose qui n'est pas attrapé du réel par les mots. Là, il y a des trous. Et ça, c'est le rapport au langage auquel on est tous confrontés. Le patou, c'est encore un peu autre chose, c'est encore un peu... je ne sais pas comment le dire, mais... Bon. Enfin, je pense qu'il faut différencier les deux.
Alors, j'ai une question. Je pense que je n'ai pas bien compris comment tu parlais d'un dire tout, d'un dire pas tout. J'ai compris comme si c'était l'un ou l'autre. Enfin, oui. Alors que ce que j'avais pu comprendre jusqu'à présent, c'est qu'une femme pouvait se situer qu'il y a, enfin, dans le tout que dans le pas tout, qu'elle passait de l'un à l'autre. Et donc, j'ai sans doute pas bien saisi ce que tu as voulu.
Non, je pense que tu as bien saisi. C'est la question de la tension entre les deux que je pose pour la femme. Le tout phallique, c'est côté homme. Il n'y a que ça, donc c'est pas de ça dont je veux parler. Mais du côté femme, il y a les deux qui jouent. Il y a les deux qui jouent et je pose la question, mais comment ça se connecte, comment ça fait.
J'avais l'impression que tu voulais dire qu'elle se positionnait que d'un côté ou de l'autre et comment elle choisissait, mais c'est ça que du coup moi je me disais, mais j'avais cru qu'elle passait de l'un à l'autre sans cesse.
Ouais. Seulement elle a besoin d'une identité. Enfin, c'est peut-être un côté ravageant, ça, de passer de l'un à l'autre. Enfin, je commence déjà la discussion, je ne devrais peut-être pas, mais... Voilà, j'ai...
Bon,
encore une question dans le fond, apparemment. Il y aurait une question à recueillir avant encore, je pense, dans le fond.
Oui, si je peux. Je pense que tous les hommes ne sont pas porteurs de phallus. Même s'ils ont tous un pénis, ça n'a rien. Et qu'être porteur du phallus, c'est déjà toute une opération. Ou qui fait du phallus un objet séparé du corps. Qui peut alors, par déplacement, devenir autre chose. C'est le début peut-être du démarrage d'une chaîne d'objets phalliques. Des discours, des sublimations, c'est pas des sublimations, mais des objets d'intérêt sont dans cette chaîne. Ce sont également des objets phalliques, des objets d'intérêt.
Oui.
Bon. Non, c'est bon.
seulement tous les hommes n'ont pas le phallus, mais il y a bien des femmes qui l'ont. Donc ça complique certainement la Bon, moi je vais faire quelques remarques. Bon, je ne vais pas commenter en détail chaque exposé, je ne m'en efface. Ça aurait été une autre formule de travail. Il aurait fallu moins d'exposés, plus en détail de chacun. Bon. Donc, je vais essayer de prendre les grandes questions posées par chacun. Alors, Zéra, si j'ai bien compris, votre question, c'est quelle est l'incidence, comme vous avez formulé à la fin, de l'objet A dans la production par Lacan des formules de la sexuation.
C'est ça.
Et tout au long, vous avez fait un exposé qui s'interroge en fait sur quel rapport entre, au fond, la soustraction de l'objet A. Vous dites castration, en général on dit soustraction de l'objet A. Et la castration phallique, c'est bien ça?
D'accord.
Voilà. Voilà. Alors, ben je crois que là, il y a un point qui engage un aspect de la diachronie de l'enseignement de Lacan. Parce que il a commencé, Lacan, à essayer de situer tout ce qu'il appelle le manque et la division du sujet, parce que ces deux termes se trouvent dès le début de son enseignement, il a commencé à le situer en disposant d'un seul instrument théorique, le phallus. Et donc, quand on lit les premiers textes de Lacan, dès qu'il s'agit de manque, c'est le phallus. Il s'agit de division, le phallus. La signification phallique, elle est partout dans toutes les significations. Bon. Et ensuite, il introduit l'objet A, à partir du séminaire encore. Et l'objet A, et l'objet A, c'est tout à fait autre chose. L'objet A n'est pas un signifiant. L'objet A, ça écrit la perte de vie et de jouissance que produit le langage sur le parleur. Donc, au fond, c'est une soustraction réelle. Elle vient du langage, elle vient du symbolique, mais la soustraction est réelle. Et ce n'est pas un signifiant, l'objet A. Le fameux, c'est un signifiant. L'objet A n'est pas un signifiant, il n'a pas d'image non plus. Et donc, du coup, on est embarrassé quand on trouve des textes sur la castration. Hein, j'ai l'impression qu'il y a un peu cet embarras-là, surtout que vous avez bien travaillé le texte sur l'angoisse cette année. Hein. Et donc, il me semble qu'il faut bien voir que l'objet A ne connaît pas la différence des sexes. Quand Lacan parle de l'objet A, de la soustraction de l'objet A, c'est pour tous les parlants. Les hommes, les femmes, les enfants, et tout ce qui parle, tombe sous le coup d'une soustraction, d'une perte, c'est ce que Freud anticipait avec son objet perdu, et c'est vrai même pour les psychotiques, comme il l'a dit lui-même. Alors évidemment, sur cette base-là, il lui faut resituer la problématique des sexes. Et il ne peut plus se contenter de l'objet A, parce que l'objet A n'apporte rien là-dessus. Et du coup, il se met à parler de la castration phallique, non pas pour tous les parlants comme il le faisait au début, parce que tous les parlants au début tombaient sous le coup du manque à être phallique. Hein? Maintenant, tous les parlants tombent sous le coup de la soustraction, de la perte de jouissance qu'est l'objet A, et il réserve le mot de castration à ce qui distingue les sexes, à partir des formules de la sexuation, et avec la thèse que la castration, c'est pour l'homme, ce n'est pas pour la femme. Et il explique, thèse qui a l'air paradoxale, parce que elle n'est pas paradoxale, mais enfin, elle inverse la problématique freudienne. Hein, pour Freud, qui formule la castration en termes de manque de pénis, la castration est pour les femmes, et pas pour les hommes. Pour Lacan, c'est ceux qui ont l'organe qui tombent éventuellement sous le coup de la castration, c'est-à-dire de la dépossession du symbole phallique. La dépossession du symbole phallique, et pas les femmes. Et comme il le dit dans l'étourdi, je ne fais pas obligation aux femmes de la castration, contrairement à Freud. Bon, là, il y a toutes sortes de développements qu'on pourrait développer. Alors, je ne sais pas si ça répond, je crois, à la question que vous posiez, vous allez me dire.
Oui, oui, ça répond, mais ça a une autre question.
Est-ce oui, que vous pouvez vous oui bien sûr.
Je me rappelle que Lacan définit aussi, par exemple, la perversion par rapport à la castration. Quand il dit que la perversion vaut pour les hommes et que ça n'est pas quelque chose qui toucherait les femmes, comment est-ce qu'on pourrait... en fait, non, c'est pas vraiment une question, c'est une question. Est-ce que ça reviendrait à dire... est-ce que c'est de là qu'il part quand vous dites que la castration est valable dans son... dans son second développement.
À partir de l'étourdi.
Voilà,
à partir de l'étourdi.
Donc c'est à partir de l'étourdi aussi qu'il redéfinirait, qu'on pourrait redéfinir la perversion comme ça. Que
alors,
ça me concerne.
C'est-à-dire qu'à partir de l'étourdi, enfin ça, je dis à partir de l'étourdi, mais si vous lisez certains textes avant, d'un autre à l'autre, ou pire, etc., il y a beaucoup. C'est jamais comme ça, hein. Je dis à partir de l'étourdi, parce que dans l'étourdi, c'est explicite. Mais il y a déjà bien des précurseurs avant. Mais à partir de l'étourdi, vous aurez observé que la perversion, le mot perversion, l'usage du mot perversion bouge. Quand il dit la perversion, c'est plus le sujet pervers. C'est la perversion que je tiens pour le propre de l'homme. C'est-à-dire que toute sexualité masculine est perverse. Perverse au sens où toute sexualité masculine fabrique son objet à partir, un, de l'objet A perdu, et deux, de quelques marques signifiantes de l'inconscient. C'est ça qu'il appelle la perversion que je tiens pour le propre de l'homme. Et donc, ça correspond à l'idée de la castration propre de l'homme, une perversion du choix d'objet, en quelque sorte, propre de l'homme.
Hein? Ça, c'est très bien.
Ouais. Alors, l'être sexuel, vous posiez à la
fin. Donc, il n'entend pas là, à ce moment-là, perversion dans le sens de structure.
Non, il l'emploie comme une caractéristique de la sexualité mâle.
Oui.
Quant au sujet pervers,
c'est très différent.
Quant au sujet pervers, il les évoque.
Oui.
Il ne développe pas de grand développement, mais il les évoque dans le séminaire encore, justement, pour dire quoi ? Pour dire qu'ils ont un rapport, en fait, plus direct à ce qu'il en est de la perversion générale du mal. Hein ? Et qu'ils ont, moins que le névrosé, le refoulement de la position perverse de la sexualité. En gros, c'est ça. Hein. Alors, l'être sexualité ne s'autorise que lui-même, peut-être on peut y revenir dans d'autres développements après, en particulier dans d'autres mots. Hein, pour voir ça, après Zeraki avait
voilà ce que je connais. Voilà ce que je peux vous dire. Hein, je, vous voyez, c'est un écho, hein, c'est pas un commentaire exhaustif et complet.
Excusez-moi. Je reviens un petit peu sur la dernière phrase que j'avais dit. La castration, c'est pour l'homme. Alors, si on prend les formules de sexuation,
oui, oui.
Il y a la castration du côté de l'homme, oui. Mais elle est aussi chez la femme, mais pas toute. Dans la formule.
La fonction phallique est une fonction de jouissance castrée.
Castrée. Donc, il y a aussi une castration. Tout castré. Humain est castré.
Mais. La fonction phallique, comme vous remarquez, oui. Dans les formules de la sexuation, elle est des deux côtés.
Elle est des deux côtés.
Donc, elle ne dépend pas du père.
Non, d'accord. Hein,
on n'est plus, dans la construction de la question préliminaire, où s'il n'y avait pas la fonction du père, il n'y avait pas de fonction phallique. Ça s'est terminé depuis longtemps. Donc, elle est des deux côtés. Et donc, dans le rapport à la fonction phallique, chez les femmes, bien sûr, il y a aussi un facteur castration.
Ça, c'est d'accord. Pas toutes.
Un facteur castration. Sauf que pour l'homme, selon Lacan, c'est la castration qui conditionne l'exercice sexuel.
Hein,
qui conditionne le désir sexuel. La castration conditionne le désir sexuel vers un partenaire. Alors que chez les femmes, c'est pas tout à fait ça.
Quand même être le symptôme de l'homme, c'est quand même être aussi grâce à la castration. S'il n'y avait pas cette perte, il n'y aurait pas non plus ce désir.
Ben là-dessus, Freud reste très valable. Le Freud de l'adinda d'inhibition symptomingoise, quand il dit qu'est-ce qui est équivalent à la castration chez les femmes. Ouais. Parce que lui non plus, il n'aurait plus dire que la castration était pour les femmes. Qu'est-ce qui est équivalent de l'angoisse de castration chez les femmes, c'est de perdre le désir et l'amour d'un homme. Donc, le manque phallique des femmes est à l'origine de leur désir-amour de l'homme.
Oui.
C'est la thèse de Freud et de Lacan. Hein. Et la castration pour une femme, l'équivalent de la castration, c'est la perte de l'objet. Donc, c'est très dissimulé par rapport à l'homme. Chez l'homme, la castration conditionne le rapport d'objet. Et chez la femme, le suit en quelque sorte.
D'accord.
Mais je suis d'accord avec ce que vous remarquez, oui, bien sûr.
Excusez-moi.
Non, mais c'est bien, c'est une question positive. Alors, le traitement de la psychoanalyse, bon, vous avez fait un exposé bien précis, hein, donc qui se prête. Ça va être bien la discussion. Au fond.
Excusez-moi, j'avais le sentiment que dans le premier exposé se posait aussi la question de la détermination ou de la non-détermination du genre, qu'est-ce qui faisait le garçon ou la fille.
Oui, oui.
Et voilà, s'il y avait moyen de. Enfin, je ne sais pas si vous avez des choses à dire sur ces choses-là.
Oh là là, j'ai plein de choses à dire. Mais je pensais revenir à propos de quel exposé de Laura, peut-être de Laura.
On va revenir à la question autrement par le côté.
Enfin, on peut y venir tout de suite. Si vous...
Non, mais si vous préférez la développer ailleurs, mais c'est juste pour ne pas qu'on oublie cet après-midi.
Oui, non, je ne vais pas oublier. Mais je suis l'ordre des exposés, je reviens donc au traitement de la psychose. Alors, il faut que je trouve votre texte, comme d'habitude. Je me mélange. Voilà, c'est celui-là. Donc, vous avez tout à fait bien marqué les étapes de Lacan. Hein. La question préliminaire, comme le terme préliminaire l'indique, Lacan construit quelque chose de la structure clinique du cas de Schreber. Hein. Qu'il appelle paranoïa, alors que ce n'est pas du tout un paranoïaque au sens psychiatrique. Hein. Bon, qu'il appelle paranoïa.
Au fond, Lacan appelle paranoïa, je crois, toutes les psychoses élaboratives. Les psychoses qui fabriquent du délire, de l'élaboration, ou de l'élaboration, etc. Alors, donc, il construit le cas, mais à la fin de la question préliminaire, on n'a pas fait un pas concernant est-ce qu'on peut faire une analyse d'un sujet psychotique. Or, c'est ça la question pour nous. Et Lacan a noté que la place du lecteur des mémoires adressé au tribunal, vous avez raison, mais qu'il a envoyé pour le monde entier quand même, la place du lecteur, ça ne fait pas un analyste, ça fait un témoin. C'est un témoin qui reconnaît que Schreber avait traversé une expérience qui révèle quelque chose à l'humanité. Avec la petite note un peu mégalo. Dans le texte de 66, par contre, où est-ce qu'il dit qu'il lui reste 2 ans, j'ai plus ça en tête. Il dit qu'il lui reste 2 ans, mais j'ai plus ça en tête. Où est-ce qu'il dit ça?
Dans le texte-là, dans le texte des présentations des mémoires d'un épopathe.
Alors dites-moi la citation, vous serez gentil, ça m'évitera de la chercher.
J'ai pas fait ça avec moi.
Parce que moi, je les ai revus, je ne l'ai pas trouvé. Donc, comme j'ai lu très vite en faisant
que oui.
Oui, oui.
Oui,
vous me direz où c'est. Je vous fais confiance, si vous l'avez lu, ça doit y être. Donc, je ne vois pas à quoi correspondent ces 2 ans, parce que 2 oui. ans après, on n'a aucun texte non. qui aille au-delà. Hein.
Oui.
Bon, d'accord. Et donc là, il fait quand même un pas de plus, puisque il explique, il l'avait bien marqué, et je me fais répéter, c'est que la place possible pour l'analyste, c'est la place de ce qui a été Flechsig pour Schreber. Parce que là, on n'est pas avec un témoin, on est avec un objet qui fixe de la libido. C'est un objet investi de libido. Dans la psychanalyse, on ne peut opérer qu'à partir de l'investissement libidien. C'est comme dans l'amour, hein. Bon, donc s'il n'y a pas d'investissement libidinal, pas d'effet, pas d'action. Et là, Lacan se sert de ce qu'il a dit déjà dans la question préliminaire, vous savez, où il a expliqué que Flechsig, le professeur que Schreber appréciait tant, qui le recevait dans un bureau dans lequel derrière lui il y avait un énorme cerveau représenté, oui, que c'était propice à déclencher chez le sujet quelque chose. Et donc il nous dit, le psychanalyste, ça vient nous dire ça, le psychanalyste n'a qu'une place possible, c'est la place de l'autre persécuteur ou de la persécution ou de l'érotomanie. Ça, c'est le partenaire investi libidinalement par le paranoïaque. Et de là, il ne dit pas comment on agit à partir de là, mais la manœuvre du transfert dans la psychose, c'est ça. Il faut bien dire que. Et de là, il y a l'idée quand même d'une analyse possible. D'une analyse possible. Qui n'est pas l'analyse du névrosé, mais qui quand même peut produire des évolutions chez le sujet. Alors, il ne dit évidemment pas le « how to do », il ne dit pas comment on fait quand on est en place de l'autre, soit qui me veut du mal, soit qui m'aime. Hein? Ou il me veut du... La phrase du transfert paranoïaque, c'est ou bien à propos de l'analyste, ou bien il me veut du mal, ou bien il m'aime. Et c'est la forme du kevoy. Dans la névrose, on a le kevoy, point d'interrogation. Là, on a la certitude. On n'a pas le point d'interrogation, mais on a la conviction, la certitude, que cet autre qui le reçoit toutes les semaines, tous les 36, bon, ne peut que ou bien lui vouloir du mal, ou bien l'aimer, avec l'ambiguïté du mot aimer. Le mot aimer qui glisse du sentiment d'amour vers la volonté de jouissance. Et donc, quand Lacan dit ne pas reculer devant la psychose, ça veut dire ne pas reculer devant la cure du psychotique. Parce que ne pas reculer devant la psychose, l'étude des structures, ça fait de mal à personne. Hein. C'est ne pas reculer devant la cure du psychotique, mais ça suppose effectivement d'arriver à supporter ce type de transfert et surtout à le supporter sans déclencher la persécution gravissime. Donc, voilà, en tout cas, là, il a donné une indication. Et il est certain que dès qu'on reçoit un sujet psychotique, enfin, dans ma petite expérience quand même, dès qu'on reçoit un sujet psychotique, on a cette note. Et on a à naviguer avec grand soin entre le risque de virer à la persécution ou le risque, qui est aussi un risque, de virer du côté de l'érotomanie. Et que les sujets psychotiques, en général, sont persuadés qu'ils sont uniques pour leur analyse. Ils sont uniques, que l'analyse s'intéresse à eux. Autant le sujet névrosé s'inquiète, est-ce que, autant les sujets psychotiques là-dessus, ils ont leur certitude. Et donc tout le problème, effectivement, la discussion de Lacan, elle n'est pas très dépliée, c'est ce qu'on peut dire, hein, comme il fait d'habitude, elle n'est pas dépliée, mais elle est quand même très, très, très précise. L'idée à se faire de la manœuvre du transfert, c'est de savoir qu'il n'y a pas d'autre alternative. Si c'est une paranoïa au sens de Lacan, c'est ou la persécution ou l'érotomanie, voire le mix des deux et un battement entre les deux. Avec le paradoxe qu'avec ça, il faut essayer de permettre au sujet quand même d'élaborer quelque chose. Parce que c'est ça une analyse, c'est quand même élaboré, c'est pas stationné dans la conviction. Donc voilà. Alors quelle est la fonction, vous demandiez?
Il y a une manœuvre. Hein? Il y a quand même une manœuvre, il y a quelque chose comme
oui.
Hein, une barre, comme dans un navire, quoi, une barre, un gouvernail à tenir pour éviter ces deux écueils.
Pour éviter que ces deux écueils, d'une part, amènent à la rupture du lien analytique, et que entre ces deux écueils, quand même, le sujet élabore quelque chose.
Quand on parle de toute petite précision, quand vous parlez d'une place possible, oui, la seule place possible, c'est la place à laquelle va être mise l'analyse par le sujet.
Oui.
Pas la place que l'analyse prend. Enfin, après, ce que l'analyse en fait, c'est la manœuvre.
Ah, mais l'analyste, vous savez, il ne peut pas prendre une place qu'on ne lui donne pas. Dans aucun cas, même si c'est une névrose. Souvent, d'ailleurs, c'est une chose qu'il faut vraiment avoir en tête quand on discute sur ce que font les analystes. Celui-là ne permet pas que, avec celui-là, on ne peut pas faire ça. Mais un analyste est à la place où on le met. Et alors, c'est avec ça qu'il s'oriente, qu'il agit. Mais bien sûr, je parle de la place qui est prévue dans la structure du patient pour l'analyste. Quand on a affaire à un sujet névrosé, puisque les analyses ont commencé avec des névrosés, la place, la première place que les premiers névrosés ont donnée à l'analyste, la première qui a été repérée, c'était substitut des parents. Substitut des parents. C'est ça que Freud et les premiers analystes ont vu en premier. Le sujet qui réitère dans la relation avec l'analyste ses relations infantiles avec ses autres. Bon, donc ça, c'est parce que la place était là dans sa structure subjective. Et l'analyste, il vient là et c'est de là qu'il opère. C'est pour ça que Lacan dit au début, à cette place de l'autre, il faut qu'il fasse le mort. Il fait le mort. Et puis après, il en vient à dire qu'il est à la place de l'objet A, c'est-à-dire qu'il cause l'investissement. Bon. Alors, pour les psychotiques, c'est pareil. La seule place possible où il peut venir l'analyste se loger, on va dire comme ça, l'analyste se loge. Hein? Il se laisse mettre à cette place. Il se loge à la place prévue dans la subjectivité du patient. C'est pour ça que Lacan insiste sur la conception du sujet. Hein? Il ne dit pas seulement... Il parle pas seulement des rotomaniements, de maniements du transfert, il dit la conception du sujet que l'analyste se fait. C'est l'analyste qui doit avoir la conception du sujet telle qu'il sait qu'il y a une place où il peut venir se loger et qu'il sait à peu près laquelle dans chaque structure. Hein?
Ce qui ne veut pas dire, c'est une question, hein, ce qui ne voudrait pas nécessairement dire que c'est de là, à cette place où laquelle, à laquelle le sujet le met, que c'est de là qu'il répond. Comme par exemple, on a dans le cas de la jeune homosexuelle, où Freud répond en se tenant à la place à laquelle elle l'a mis, et ce n'était pas la bonne place pour la poursuite de la cure.
Alors, disons qu'il est appelé à cette place, l'analyste, et que de cette place, il opère pas comme le terme qu'on lui impute d'être,
voilà,
mais qu'il opère à partir d'une autre, sinon le transfert ne serait que répétition.
Oui. Hein?
Et l'analyse ne ferait que reproduire la névrose infantile. On ne voit pas ce qu'on lui gagnerait. On n'y gagnerait rien. Donc pour que l'analyse opère et bouge la névrose infantile, il faut bien que l'analyste se décale. Il est dans une place, mais il se décale. C'est dans le cas précis du persécuteur et de celui qui aime le patient, c'est pareil. Il va se décaler suffisamment pour faire question, justement.
Donc, il faut quand même endosser cette place-là d'abord pour qu'il y ait du transfert.
Ben, il faut avoir l'idée de la place, hein, la conception du sujet. Ce qu'il appelle la conception du sujet, c'est ça. Il faut qu'il ait l'idée de la place où il peut venir. C'est comme ça que je comprends cette double affirmation, la conception à se faire du sujet et la manœuvre du transfert érotomaniaque, l'érotomanie mortifère. Érotomanie mortifère, ça condense persécution et érotomanie, en fait. Alors, la fonction de l'écriture dans la stabilisation de Schreber, j'ai tendance à penser qu'il a commencé à écrire tant qu'il était stabilisé.
Donc, c'est pas
l'écriture qui l'a stabilisé.
Non.
C'est quand le délire a évolué de telle sorte il s'est réconcilié avec les amours de Dieu dans son élaboration délirante qu'il a commencé à pouvoir écrire.
Et donc, c'est très longtemps, et je me demandais, c'est une question qu'on a évoquée pendant la présentation, parce qu'il a écrit sur plusieurs années,
oui,
il a mis énormément de temps, il a constitué un annexe de fou,
oui.
et on se demandait si cette longueur, ce temps pris de l'écriture n'a pas aussi, entre guillemets, stabilisé, aidé la stabilisation, le temps de l'écriture. C'était impressionnant.
Je crois que, vous savez, les psychotiques écrivent énormément, très facilement,
oui.
Énormément. Je crois que ça, l'écriture, au sens de l'écriture, on écrit sur le papier, hein, on écrit des choses sur le papier, c'est ça, on écrit du récit sur le papier. Je crois que c'est un peu une fonction de tiers. C'est-à-dire que le sujet qui est pris dans ses affres, parce qu'il faut voir Schreber, hein, ce que c'était, les affects qui ravagent, alors pour le coup, hein, énorme. Donc, le sujet pris dans ses affres, en écrivant, il dépose sur le papier quelque chose qui fait comme un tiers, qui n'est pas un tiers, mais qui fait tiers, qui allège, qui...
Mais ça se
c'est l'écriture, exutoire aussi.
On lit vraiment quelque chose qui se... qui est porté.
C'est pas une écriture solution, c'est une écriture exutoire, tiers, parce que l'écriture, ça a plusieurs fonctions possibles. Je ne crois pas que c'est l'écriture solution. Toutes ces tonnes de papier qu'il a noirci.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, c'est l'essentiel de votre texte.
Et c'est parce qu'elle est exutoire qu'elle n'est pas borroméenne.
Hein?
C'est parce qu'elle est exutoire que c'est une écriture exutoire qu'elle n'est pas borroméenne. L'écriture de Schreller.
Oui, je ne me suis jamais posé cette question sous cette forme. Donc,
mais moi, oui, moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que je me disais justement, effectivement, Schreller a pas fait cette chose. Et d'ailleurs. Que Schreber, quelque part, est l'analyste de son propre Dieu, qui c'est lui qui interprète Dieu. Et donc, et le travail du délire, c'est quand même tout ce travail d'un remaniement signifiant, avec quand même des effets sur la jouissance, etc. Mais sauf que je me disais, tiens, enfin, cette écriture, quand même, l'adresse à un autre. C'est-à-dire que le délire, ce qu'il y a, c'est que ça ne fait pas du lien social. Il n'y a pas la place d'un autre. Et que, enfin,
disons que, est-ce que l'autre n'est pas sujet supposé savoir dans la psychose. Celui qui sait, c'est le psychose. Il sait que l'autre lui veut du mal ou qu'il lui veut du bien. Suivant que c'est plus ou moins les rotomales. Donc l'autre n'est pas sujet supposé savoir. Du coup, on comprend que le sujet veuille produire son propre savoir, produire quelque chose qui vient de lui. Et il noircit les pages. Alors c'est pas une écriture solution, c'est une écriture symptôme, expression de sa psychose. Mais qui en même temps a quand même une fonction, me semble-t-il, un peu une fonction de tiers entre son autre et lui. Hein. Oui. C'est déposé sur la feuille et regardez, ces paranoïaques qui en analyse apportent leurs écrits à l'analyste. Apportent leurs écrits à l'analyste et l'analyste a toute raison de les prendre, de les garder et surtout pas les mettre à la poubelle. Parce que... Donc, oui.
Quand vous parlez d'écriture solution, vous pensez à une chose?
Je pense à toutes les formes d'écriture qui sont des écritures pas forcément solution de la psychose, mais qui sont des écritures de type sublimatoire, de faire passer au signifiant quelque chose qui est vécu comme réel. Alors j'appelle ça l'écriture solution. Là c'est pas de l'écriture, c'est pas de l'écriture solution. C'est ça que je dis, c'est pas une écriture solution.
Joyce, on peut dire que c'est deux écritures, à la fois bien sûr symptôme, mais écriture aussi, comme vous l'avez dit là. Exutoire.
Non, je ne dirais jamais exutoire pour aucune des écritures de Joyce, même pas pour Finet dans le souhait. Quand on sait comment était écrit Finet dans le souhait, on a maintenant les carnets, on sait comment c'est fabriqué à partir d'un calcul de notes, de mots repris là. Exutoire, vous savez, quand on dit exutoire, le mot c'est proche de. On éjecte. C'est pas une écriture exutoire, c'est une écriture calculée et construite. C'est une écriture symptôme, aucun doute. Ça lie directement la jouissance et le signifiant. C'est entre symbolique et réelle directement en main. C'est pas borroméen, l'écriture pas du tout borroméenne. Et la thèse de Lacan, la grande performance de Joyce, c'est qu'il a un art qui est borroméen alors que son écriture ne l'est pas. C'est pas la même chose, l'art de Joyce et l'écriture de Finnegan-Swift. Et donc c'est borroméen et on en voit d'ailleurs les effets dans sa personnalité, parce que son caractère a vraiment changé, on a tous les témoignages de ça, ses relations aux autres ont changé.
Mais parfois le délire peut faire lien social. Je pense à ces poètes français, ami de Breton, je perds son nom pour l'instant, un ami de Breton, tous les surréalistes, grands poètes et dessinateurs français, 1908-1910. Son nom me
revient.
Comment ?
Un ami de Breton.
Oui, le Breton, tous les surréalistes très connus.
Comment ?
Je ne suis pas Michaud, non. Enfin, bref, le nom vient d'entendre, mais je veux dire simplement que le délire peut faire lien social par moment. Quand on pense à des gens comme ça,
Bien sûr, c'est quand je vois
certains peintres qui sont tout à fait délirants, ils font lien social de leur délire.
Oui, ça, c'est aussi possible de faire lien social avec le délire. Ben, c'est-à-dire qu'il y a dans le délire une force libidinale qui captive. Qui captive les autres. Et la force d'affirmation du délirant qui ne vacille pas dans sa certitude, ça a un pouvoir de captivation.
Mais est-ce que ça peut faire l'escabeau pour revenir à votre séminaire l'année passée?
Ça peut faire l'escabeau, bien entendu. Et vous savez que ça existe même dans la psychanalyse. Partout. Oui, bien sûr. Bon, peut-être on va avancer dans les exposés qui viennent.
François.
Dans notre homme. Alors, l'homme au bras, je cherche l'exposé, j'ai marqué quelques choses sur mes feuilles qui se mélangent toujours. Voilà. Alors, ce qui me frappait dans le très juste résumé que vous avez fait de la position de Freud et des formulations de Freud, un peu matinée d'expression de Lacan arrivée après, mais il faut bien dire que dans le séminaire les formations de la conscience, Lacan est plus freudien que Freud sur les dits. Donc il en remet, non seulement il n'est pas au-delà, mais il en remet. Donc on est dans la même direction. Et donc, vous pouvez avancer des expressions du type que l'homme au rat, il a un problème avec son désir sexuel et le choix d'une femme. Eh bien, quelques 10 ans après, Lacan pourrait vous dire ça. Le désir sexuel et le choix d'une femme, ce sont deux choses très différentes. Le désir sexuel, c'est le désir sexuel. C'est le désir d'un autre corps. Et l'homme au rat n'est pas en mal avec ça. Et on a le témoignage qu'il a une petite maîtresse.
Oui.
Il a une petite maîtresse avec qui il fait fort bien l'amour, il n'y a aucun problème. C'est ça le désir sexuel. Le choix d'une femme, c'est tout autre chose quand même. Et donc, cette coalescence que Freud, sur laquelle Freud fonctionne avec son Oedipe, c'est que le désir sexuel de l'homme coïncide avec le choix d'une seule qui est la bonne, la sienne. Hein? Ça se défait après, c'est un défaire. Et même quand chez Lacan, vous trouvez des passages où il dit à quel point c'est comique qu'un homme puisse penser qu'une femme est la sienne. Même si c'est celle qu'il a élue, épousée et à qui il a fait des enfants, parce qu'il a là aussi, c'est l'histoire du père modèle, c'est là aussi. Et donc, je crois que l'homme aura. Il faudrait le prendre du côté normalité de sa perversion. Hein ? Non, parce que son obsession des rats, bon, c'est une obsession, bien sûr, et heureusement, Freud a réussi à la réduire, parce que ça l'a empêché de vivre, le pauvre rat. Hein. Donc, c'est bien qu'il ait réduit la forme obsessive qu'avait pris la représentation de la cruauté, au fond, du scénario du rat entrant dans l'anus de la victime, etc. Bon, c'est très bien qu'il ait réduit cette obsession, mais il est certain que ça reste la position, une des positions, une facette de la position de l'homme au rat, l'agression à l'égard de l'objet. Et que ça, il a réduit son obsession, mais je me disais, au fond, quand je me dis qu'il s'est marié, je ne sais pas si c'est vrai, je vais vérifier, je vais vous le dire, moi je me disais quand même, cet homme aura, je ne voudrais pas que ça parle, c'est tout simple, parce que bien sûr il est délivré de son obsession, mais la position d'agressivité à l'égard de l'objet, cette position dont Freud nous dit que chez l'obsessionnel, c'est ce qui le protège du suicide, que même désespéré, il ne se suicide pas parce qu'il garde une agressivité à l'égard de l'objet qui le maintient en vie. C'est Freud qui dit ça, c'est pas moi. Donc, si vous voulez, le scénario du rat, ça va jusqu'à un symptôme à soigner, mais ça nous indique quand même que la fixation fantasmatique de la jouissance pour le rat passe par un scénario qui n'est pas spécialement, comment dire ça, respectueux de l'objet. Hein. Donc c'est pour ça que c'est provoquant ma formule, mais il faut quand Lacan dit je tiens la perversion que je tiens pour le propre de l'homme, ça veut dire la perversion du fantasme. C'est la perversion du fantasme. Alors évidemment, l'homme aura en même temps, comme dit Freud, il a deux faces. C'est un homme qui a des valeurs, ça on se dit bien qu'il ne va pas attaquer personne, mais dans son fantasme, c'est quand même ça. Et donc, c'est pas qu'il a un problème avec son désir sexuel, son désir sexuel ne va pas bien ni avec son ravalement de la vie amoureuse, l'idéalisation de la dame d'un côté et l'objet sexuel de l'autre, c'est du typique. Et qu'il a un fantasme effectivement qui n'est pas favorable pour une vie conjugale pacifiée. C'est pour ça que Lacan dit qu'il est guéri de son obsession à la fin, mais qu'il considère qu'il n'est pas guéri du tout. Voilà, c'est un symptôme qui a été guéri. Mais la position du sujet n'a pas bougé.
D'ailleurs, je ne comprends
quelque part, il s'interroge aussi sur la mort de l'homme.
Oui, oui, oui. Oui, oui. Il pousse là.
Oui,
oui, la mort.
Ça m'a interpellée.
Oui, oui, c'est interpellant, mais c'est une façon de dire les choses. Mais vous savez, Freud dit, parlant de l'homme, il dit qu'il est mort dans les tranchées, comme tant de jeunes gens de valeur ont disparu dans la guerre de 14. Bon. Et Lacan dit qu'il tient pas pour d'accident qu'il soit mort dans les tranchées.
Je vois.
C'est-à-dire que il pense que la structure, c'est en harmonie en quelque sorte avec la structure de l'amour. Alors je dis oui, la position subjective. Je pense qu'il pousse un peu parce que quand on sait ce qu'ont été les tranchées de la guerre de 14, on voit vraiment pas comment la position subjective pourrait avoir une incidence sur le fait de tomber sur le front. Bon, donc moi je considère que Lacan, là, quand il dit ça, c'est une façon de nous dire que la mort était dans l'horizon fantasmatique de l'aurora. C'est pas une façon de nous dire
qu'il a cherché
se suicider sur le front. C'est pas ça du tout. Hein.
Mais que la question n'était pas réglée pour vous.
Mais la question n'était pas réglée. La question n'était pas réglée.
Il aurait pu régler la question.
Ah ben l'idée c'est que on espère qu'une analyse ça peut quand même faire bouger un petit peu ça peut faire bouger la position du sujet, même si le fantasme reste en place, le fantasme, la construction du fantasme reste en place. La position du sujet à l'endroit de son fantasme peut bouger. Oui, oui, oui. Ah ben oui, parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait ?
Oui.
Hein ? Oui. Vous avez des doutes, peut-être, mais...
Non. Imaginez les pousser après.
Ah oui, après quelques années, j'aurais été... J'aurais été un homme à marier. Oui, oui. Bon, c'est le point principal, on pourrait le prendre, il y a plusieurs choses dans votre exposé,
mais aussi la question effectivement de l'éclairage que peut avoir quand même ce cas sur ce qu'on rencontre quand même toujours un peu aujourd'hui dans l'embarras, hein, par le désir impossible, la difficulté que peuvent rencontrer effectivement certains hommes dans ce qu'ils nous rapportent effectivement à ce nouage, à consentir au fond au désir avec ce que cela suppose de lâcher sur la jouissance pour consentir au fond au désir, et parce que ça implique au fond.
Qu'est-ce qu'on appelle là, consentir au désir ? Le désir, c'est ça la grosse question, n'est-ce pas ? Le désir, il a une cause.
Oui.
Donc, c'est un vecteur.
Oui, oui, d'accord.
Mais il n'a pas d'objet. Il n'a pas d'objet préattribué. Pour ça que Lacan insiste pour dire que les objets du désir sont des leurs. Et donc, la question, c'est comment le désir qui a une cause qui le rend indéterminé, arrive à se fixer, à se déterminer sur des objets.
Oui.
Alors, la grande idée de l'idée,
oui,
c'est que le désir doit se fixer sur une femme, on parle de l'homme, hein, on parlera des femmes après, doit se fixer sur une femme. C'est ça. Non. La dernière idée de Lacan, c'est qu'il se fixe sur un plus jour.
Oui.
Le désir se fixe sur un plus jour. Alors, ça peut être des plus jours en série, ou ça peut être un objet qui condense un plus jour, un seul, ou plusieurs, mais le résultat est le même. Le résultat est le même. Donc, à cet égard, je ne vois pas comment je ne pourrais pas dire que les hommes actuels ont plus de difficultés avec leur désir qu'il y a 30 ans. Il y a 20 ans, hein, maintenant, effectivement, si on dit le désir, c'est de choisir une femme élue pour la vie, ça c'est devenu problématique. Ça c'est devenu problématique. Ah, mais vraiment problématique. Oui, chez les filles aussi.
Oui.
Ils aspirent à l'amour, tout ça, mais quand même, comme le disait Miguel, j'envisage bien d'avoir un couple pendant au moins quelques temps, 7 ans, 8 ans. Ça a changé quand même, hein. Il y a un changement là-dessus. L'anticipation du couple pour la vie, ça devient rare. Alors, voilà. Mais, alors, une autre question que posait votre exposé, là, qui est importante, c'est quel est le poids des modèles que sont les parents, que ce soit un couple homme-femme ou un couple homo d'ailleurs. Quel est le poids du modèle de couple que présentent ceux qui nous élèvent, hein? Eh bien, je cherche à dire ça de façon condensée et qui nous ramène à une autre question. Quand Lacan dit « ils ont le choix », ça veut dire que ça traite.
Ils ont le choix,
les êtres sexués. Vous savez cette phrase énigmatique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne vient pas de l'autre, que l'identité sexuée ne provient pas ni des antécédents, ni du discours extérieur. Ça vient d'un choix. C'est l'idée qu'il y a une option, il y a un point d'option. On ne choisit pas son anatomie, on ne choisit pas le sexe a priori, on le subit, mais il y a des points d'option. Alors Lacan, il a posé ça, et on le voit en même temps lui-même se poser la question que vous posez. On le voit se poser la question que vous posez. Fin du séminaire de l'angoisse. Si vous vous souvenez de la fin du séminaire de l'angoisse, il pose la question de un père. Eh bien, un père, c'est celui qui sait, je ne sais pas comment il s'exprime, quel est son objet. C'est-à-dire qu'il est le modèle, il donne un exemple. Donc un modèle, il donne un exemple d'un sujet qu'a fixé son désir sur un objet spécifique. RSI, c'est la même chanson.
Oui, c'est ça.
Il y revient. Lui-même se redemande quel est le poids d'un père. Il modèle. Veut faire modèle, le modèle. Mais après, on est dans les récits, mais s'ils ont le choix, le modèle n'est pas une obligation. Hein? Donc le modèle est peut-être une petite induction. En tout cas, ça n'est pas une détermination. Le modèle ne détermine pas.
C'est ça, c'est pas une détermination.
Le modèle ne détermine pas, c'est ça qu'il faudrait dire. Oui.
Et là, on revient alors à cette fameuse forme d'action, l'être sexué ne se risque que de...
Exactement.
Pardon, excusez-moi. J'avais terminé comme ça, avec cette phrase-là, ma petite exposée, que Lacan dit que l'être sexué ne s'autorise que de lui-même, et non d'un modèle ou d'un prédicat.
Ou d'un mythe, d'un rêve. Alors ça nous ramène à la question que vous posiez tout à l'heure, quand Lacan écrit ses formules de la sexuation, et dit « ils ont le choix ». Les sujets, quelle que soit leur anatomie, de s'inscrire d'un côté ou de l'autre. C'est une option. Une option qui est une option de jouissance, en fait. Une option de jouissance, et la preuve, c'est que dans les tout-familles et dans les pas tout-familles, il y a beaucoup de monde. du côté tout phallique, il met l'homme, qui est écrit avec une majuscule, hein, l'homme, il met les homosexuels, la filia grecque, il met les hystériques, hommes et femmes, il met aussi certains mystiques, Angelus, Silésius. Hein? Donc, ça, vous voyez donc que le choix de l'identité de jouissance toute phallique est indépendant du choix d'objet. Mm-hmm. Indépendant du choix d'objet. Vous avez posé cette question. Rien à voir. Et de l'autre côté, du côté du patou, où il y a adossé, mitoyen, avec la jouissance phallique de la jouissance autre, il met aussi quand même beaucoup de monde. Il met donc les femmes pas toutes, il met Schreber, il met les mystiques, il met les béguines. Et donc, là aussi, c'est des configurations libidinales extrêmement variées. L'intérêt des béguines et des mystiques, c'est que leur partenaire n'est pas l'homme. C'est Dieu. Hein? Ça disjoint la jouissance autre du rapport à l'homme. Parce que chez les femmes, elles restent liées quand même aussi à l'homme. Et donc, c'est ça l'idée du choix. Alors, si on demande d'où vient le choix, mais le propre d'un choix, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de pourquoi. C'est une option subjective. C'est pour ça que Lacan, dès les débuts de son enseignement, à propos de la psychose, évoquait la liberté.
L'identité sexuelle, se nomme ou se choisit à partir d'un objet de désir. Enfin, c'est-à-dire, où est-ce que l'identité sexuelle existe en peut se choisir ou se déterminer sans objet de désir.
Ce qu'il faut préciser pour comprendre ça, c'est que quand il écrit ses formules de la sexuation, Lacan a dans l'idée qu'il y a le sujet et son corps. Et que ce sont deux choses bien distinctes. Hein. Et que donc, l'option de jouissance, elle concerne le corps. Et qui choisit, c'est le sujet. Mais le sujet, comme il dit, n'a rien à voir avec la jouissance. Mais, hein, il choisit, au fond, il opte pour une jouissance de corps. Ben, sinon, on ne comprendrait pas pour qu'il y ait choix, il faut celui qui choisit et ce qui est choisi. Donc, un choix, ça implique toujours deux termes. Celui qui choisit et ce qui est choisi. Donc, celui qui choisit, c'est le sujet. Le sujet, en tant que tel, en tant qu'il est seulement supposé au signifiant, c'est pas un être de jouissance, le sujet. Hein? C'est un être de manque, de vide. Et ce sujet-là, du fait qu'il a un corps, il peut choisir une modalité de jouissance. Autrement, on ne peut pas comprendre qu'il y ait choix. Donc voilà, je voulais préciser ça pour... Je ne vous dis pas que ça devient simple, hein, mais il faut déjà avoir cette idée de qui est le choisissant et qu'est-ce qui est le choisi.
J'ai une difficulté avec ce que vous dites, parce que d'un côté, vous dites le choix, c'est une option subjective. Alors, est-ce que ce ne serait pas le choix, excusez-moi, le terme choix n'est peut-être pas bon, de l'inconscient réel qui n'a rien à voir avec le sujet ? Est-ce que ce n'est pas notre inconscient qui nous fait choisir ? Or, cet inconscient réel n'a rien à voir avec le sujet. Donc ça ne peut pas être subjectif.
L'inconscient réel n'est pas subjectif. L'inconscient réel, c'est de l'inconscient incarné.
Donc, est-ce que nous sommes sûrs que c'est
de l'inconscient incarné ?
Tout à fait. Mais est-ce que ce n'est pas cet inconscient réel incarné qui nous oblige à prendre cette option-là ? Est-ce qu'on peut être sûr de ce que nous disons là ?
S'il nous obligeait,
il n'y aurait pas de choix.
Il n'y a pas de choix, mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Quand vous dites qu'il y a un choix subjectif, qu'est-ce qui nous prouve que, excusez-moi, qu'est-ce qui nous prouve que c'est un choix subjectif et pas une décision de l'inconscient réel? Qu'est-ce qui nous, excusez-moi d'amener ça, mais...
Alors l'inconscient réel, attendez là,
oui.
On va jamais se séparer, il va falloir y passer la nuit.
Ah, si vous voulez, c'est un choix subjectif. C'est moi.
Qu'est-ce que c'est que l'inconscient réel chez Lacan, puisqu'il a quand même avancé cette formule très tardivement, très tardivement. Et il y a quand même, dans ce qu'on appelle l'inconscient, il y a quand même deux pôles. Il y a les signifiants qui représentent le sujet, et qui sont aussi inconscients, et puis il y a les signifiants de l'inconscient qui touchent le corps. Mais l'inconscient réel, ce sont des signifiants qui condensent de la jouissance. Hein? Voilà. Alors, le modèle de premier signifiant de l'inconscient réel, c'est la phobie.
Oui, oui, je suis d'accord.
Donc, dans l'inconscient réel, qu'est-ce que vous avez? Vous avez S1. Voilà. Donc, avec ça, vous n'avez pas de différence des sexes.
Tout à fait d'accord.
La différence des sexes n'est pas marquée.
D'accord.
N'est pas marquée. Et donc, c'est comme avec l'objet A, puisque les âmes d'inconscient réel sont liées à la chute de l'objet A. Donc, pas de différence des sexes.
D'accord.
Sur cette base, Lacan se pose la question de comment se répartissent les deux côtés. Et donc, il a l'idée que ce qu'il avance, c'est qu'il y a un choix concernant la jouissance phallique. Et ou tout ou pas tout. Et que c'est un choix du sujet.
Oui.
Qu'il en fait une femme, comme il dit, un sujet se propose d'être dit femme. Un sujet se propose d'être dit femme, c'est son expression. Autrement dit, le sujet, il le pose comme une femme ni homme. Un sujet se propose d'être dit femme si telle et telle condition sont réalisées. Alors, c'est là qu'est le choix. On peut discuter sur ce point. Il y a un autre point où il n'y a pas de choix, par contre. Du tout, il n'y a pas de choix au niveau de l'inconscient réel, des marques. Des marques sur le corps, là, il n'y a pas de choix. C'est de la contingence, d'une jouissance qui est arrivée, qui s'est inscrite. Et c'est là pour toujours, en quelque sorte. Voilà.
Et le fantasme,
hein?
Le fantasme, c'est une construction. Mais une fois qu'il est là, il n'y a plus de choix.
Le fantasme, c'est ce qui établit une connexion entre le manque du sujet et un objet plus de jour. Hein? Donc, le fantasme, comme il le dit, il est relativement... le choix d'objet est indépendant du choix de l'identité. En tout cas, c'est l'idée de Lacan. J'essaie de comprendre avec vous quelle est la construction de Lacan. Je ne dis pas qu'on a toutes les clés. Mais il est certain que quand il énumère qu'il y a d'un côté, qu'il y a de l'autre, il n'y a pas photo. Pour lui, le choix du tout, du pas tout, n'engage pas le choix d'objet. Au sens homme, femme, Dieu. Voilà, ça c'est certain.
Quand on pense à Hans, par exemple, lui, il part, son point de départ, c'est vraiment son propre sexe. C'est l'érection et la jouissance rencontrées.
Son point de départ, c'est l'angoisse. Que lui donne la rencontre entre l'érection de son propre sexe et les paroles de sa mère. Hein, c'est ça.
Oui.
Le point de départ de l'angoisse de Hans, c'est pas les érections
c'est
qui l'angoissent.
C'est pas
les érections en tant que telles qui angoissent Hans. Ce qui angoisse Hans, c'est que les propos de la mère, c'est une cochonnerie, etc. Ouais. Et donc lui qui est dans le jeu de séduction normal d'un enfant, là l'angoisse surgit. Et donc la phobie, c'est la première invention génératrice d'un signifiant de l'inconscient. Et là, on voit que le signifiant de l'inconscient, il est à la surface des phénomènes. Comme dit Lacan, il est à la surface comme Dartre au joug. Hein, ce n'est pas un signifiant disparu en profondeur et refoulé. L'inconscient réel n'est pas refoulé. Il est à la surface.
À fleur de peau.
Oui, à fleur de peau. Oui.
Comment est-ce que vous vous situeriez dans l'époque actuelle, dans cette partition que vous avez donnée, tout le discours et toute la problématique des transgenres?
Oui, ben justement, les transgenres, ils montrent bien qu'il y a du choix possible, que le sujet, il peut prendre une position par rapport au corps qu'il a, par rapport à l'attribution que le discours fait sur ce corps, et il peut récuser son anatomie, il peut récuser même que le sexe soit très déterminant. Enfin, il y a toutes sortes de positions qui se sont affirmées, et non seulement il y a des sujets comme ça. Alors on n'aime pas ça chez les psychanalystes, on a l'impression que cette symbolique est en défaut, un peu. On n'aime pas ça, mais quand même, il faut bien remarquer que la société suit, que les législations entérinent. Et donc si les législations entérinent, ça veut dire qu'il y a un consentement de notre culture qui va dans ce sens.
Et la science aussi. Hein? Et la science qui soutient ça aussi.
La science, elle ne dit pas grand-chose là-dessus pour l'instant.
Elle ne dit pas, mais elle soutient et elle est qui est transgenre à l'éducation au bout du côté du...
Ah oui, bah ça, c'est pas une science, attendez.
C'est
les médecins, les chirurgiens qui...
La technique.
Oui, d'accord. La science rend des choses possibles. En tant que telle, la science ne se prononce pas là-dessus. Jusqu'à présent, en tout cas.
Mais
les médecins qui ne sont pas la science, oui, bien oui. sûr.
Attendez, j'ai perdu le fil du coup.
Les transgenres. Hein.
Donc la question,
l'idée du choix, les sujets longs, et la société, de plus en plus, on termine. Lacan, il était à l'heure avec son idée du choix. Il est arrivé à ça tout à fait autrement, par la psychanalyse, mais ça entre vraiment en consonance avec ce qui se passe aujourd'hui. Et actuellement, ce à quoi on assiste, c'est effectivement, c'est la récusation par certains sujets du sexe a priori. Et de toute l'attribution du genre par le social.
Et la chute des signifiants nets qui viennent révéler effectivement.
C'est-à-dire que l'anatomie a cessé d'être un signifiant net. L'anatomie a été un signifiant net. On ne sait pas jusqu'où ça ira, hein, parce que c'est encore pas général sur la planète. C'est quand même ça, des choses aux États-Unis. C'est en Europe dans les sociétés évoluées capitalistiquement. C'est ça, une société évoluée aujourd'hui. C'est capitalistiquement. Ça n'est pas du tout encore partout sur la planète, c'est sûr, on ne sait pas très bien jusqu'où ça ira, mais...
Les effets sur le corps de l'être parlant.
Oui, c'est difficile d'anticiper. C'est difficile d'anticiper. Ce qui est assez intéressant quand même... enfin, je ne sais pas.
Est-ce que le fait d'être abattu comme ça sur le choix... d'être désolidarisé un petit peu des signifiants nets, de les masquer au fond de cette vérité-là, n'est pas source d'angoisse.
Dès qu'il y a du choix, c'est terrible d'avoir le choix.
Oui,
quand on n'a pas le choix dans sa vie, qu'on a une seule voix, on se débrouille avec.
Oui.
Mais avoir le choix est toujours angoissant.
Oui, c'est ça.
Ah, oui,
on pourrait dire que ça libère le sujet, mais en même temps...
Oui, le
ça leur rabat aussi.
Ça n'est pas forcément un bonheur.
Voilà, c'est ce qui est prétendu quand même. Hein,
oui, parce qu'on a...
Chouette, on a le choix. Ouf, mais non. Parce...
Oui, c'est vrai. Oui. Donc,
on ne vous oublie pas, non, on ne vous oublie pas.
Alors, le ravage. Le ravage. Alors, quelles étaient vos questions, voyons, à propos du ravage? Oui, moi, mon idée, vous avez déjà parlé du ravage, on en a déjà parlé. Mon idée, c'est que le ravage n'est pas un affect. Dans ma définition du ravage, hein, le ravage, génère des affects, va de pair avec des affects, mais en lui-même, ce n'est pas un affect. Qu'est-ce que c'est qu'être ravagé? Au sens propre, un ravage, c'est ça éradique des repères. C'est l'éradication des repères. Un territoire ravagé, une tempête ravage un territoire, ça renverse les bâtiments, ça renverse les boussoles. Ça... Bon, c'est ça le ravage.
C'est quelque chose du côté du réel, alors. C'est quelque chose du côté du réel.
De l'absence de l'autre, du
symbole. En tout cas.
Orphalique.
Je ne sais pas si je convoquerai le mot réel dans ce cas-là, mais je dirais renverser des repères. Et on est toujours.
Des boussoles.
Oui, des boussoles, vous avez bien dit, ça produit forcément des affects. Déplaisant, douloureux. On est toujours ravagé par. Mm-hmm. Et si on fait la série des parts, vous en avez évoqué un certain nombre, bien sûr. On peut être ravagé par l'autre, la mère, l'homme. On peut être ravagé par l'angoisse. On dit ça.
Oui.
On peut être ravagé par ses propres symptômes,
la maladie.
Vous-même vous dites, une femme se prend pour son propre objet d'affliction. Mmh. Ça veut dire qu'elle est ravagée par son symptôme.
C'est ça. Hein?
Donc quelque chose qui au fond fait tomber des points d'appui du sujet. Un sujet, ça a toujours des points d'appui. On a toujours là, comme on dirait, trois, je crois. C'est comme un tabouret, il faut quand même, ça ne tient pas sur deux pieds, il faut au moins trois ou quatre. Alors, on a beaucoup parlé du ravage mère-fille, oui. Hein, mais vous le dites bien, c'est, ça existe, mais ce n'est pas dans tous les cas. Et moi, je dois dire que je préfère le terme que Lacan emploie dans l'étourdi. Je préfère deux termes. Quand il dit qu'est-ce qu'un homme pour une femme, il dit une affliction, voire un ravage. Je préfère affliction parce qu'on peut l'écrire avec PH. Hein? Vous écrivez affliction avec PH, c'est vraiment le terme qui dit ce dont il s'agit. C'est pas absolument le ravage. Le ravage avec la mère, c'est un vaste chapitre. Hein. Qu'est-ce qui est ravageant de la part d'une mère? Il y a à la fois ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire ses oracles. Vous savez, les mères, ça a toujours à la bouche plein de propos oraculaires sur sa fille. Oui. Sur son fils aussi, d'ailleurs.
C'est
pas que sa fille, mais ça fait souvent plus tilt chez la fille à cause de ce qu'elle ne dit pas par ailleurs. Et donc, les oracles maternels, c'est ravageant parce que ça rabat la personne à qui ça s'applique sur les signifiants de la mère, hein, et ça éradique les efforts que fait le petit garçon ou la petite fille pour s'affirmer en tant que lui-même.
Là, on a un sens propre du mot ravage. Pousse-toi de là, je mets mon signifiant à la place. C'est un peu de cet ordre. Et puis, ce qui s'ajoute pour les filles, c'est la question de la féminité de la mère, qui joue aussi pour les garçons, mais de façon moindre, je crois. En tout cas, c'est moi l'idée que j'ai là-dessus, hein, on n'est pas obligé de la partager. Mais au fond, toutes les filles reprochent à leur mère de ne pas leur avoir transmis le secret. Le secret du secret. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la femme? Bon. Et donc, comme c'est un secret qui n'a pas de réponse, évidemment, toutes les mères sont coupables. Et les reproches, c'est assez amusant. Il y en a qui reprochent à leur mère de ne pas avoir été assez femme, de ne pas s'être assez soignée, d'avoir laissé partir le père, etc. etc. Et il y en a d'autres qui lui reprochent d'avoir été une femme tellement belle, tellement séduisante, etc., etc., que la pauvre fille... Bon, et donc, finalement, la faute maternelle fondamentale pour une fille, c'est que la mère ne peut que rester coite sur ce que c'est que l'autre jouissance. On est là à se torturer sur qu'est-ce que c'est que cette autre jouissance, où en trouve-t-on les indices, les signes, etc. D'une certaine façon, derrière des propos qui sont très, très communs, très banals de la vie commune, c'est ça la question. C'est ça la question. Et donc, c'est en ce sens qu'il y a toujours une amorce de ravage possible entre mère-fille. Hein, quoi que fasse la mère, quoi que fasse la mère. Bon, mais je trouve que Lacan, justement, dans l'étude, c'est ça que je voulais avancer, il dit une fille, pour critiquer Freud, qui applique l'Œdipe aux filles, il dit que ce qui contredit à l'idée de l'Œdipe féminin de Freud, c'est que les femmes attendent plus de subsistance de leur mère que de leur père. Subsistance, c'est un mot qu'il faudrait déplier, mais enfin, subsistance, ça évoque quand même la subsistance identitaire des femmes, hein, en même temps que ça évoque implicitement la jouissance. Et c'est pas du côté du père qu'on le cherche, effectivement. C'est bien ce terme de subsistance. Ça aurait le coup que. Enfin, je n'ai pas fait de développement là-dessus, mais ça serait intéressant de s'amuser à développer subsistance.
Des questions se posaient aussi.
Ça va de pair avec le ravage, ouais. Toujours possible.
Oui. La question aussi que je posais, c'est est-ce que l'homme peut être aussi ravagé?
Bien sûr. Écoutez, croyez pas que. Strauss-Kahn et Weinstein ne sont pas ravagés alors qu'il est? Évidemment, ils avaient toutes les insignes signifiantes et tout ça est à terre. C'est la définition du ravage. Les insignes, les repères, ce que j'appelle les repères, fuck. Alors ils peuvent faire les bravasses. Einstein fait un peu le bravasse, Strauss-Kahn non, il se terre, mais chacun réagit à sa façon, mais bien entendu, le ravage n'est pas réservé aux femmes. Et il y a beaucoup de. Dans la vie, il y a beaucoup de circonstances où un sujet peut tomber sous le ravage. Là, nous parlons de ravage type, hein, qu'on rencontre à partir de la psychanalyse, mais ça n'épuise pas tout ce qui peut se passer dans la vie. Bien entendu.
Mais je vous ai posé la question aussi, oui. Par rapport à. Est-ce que ce n'est pas une jouissance de la néantisation?
Ah oui, vous avez posé cette question. Excusez-moi, j'étais en train d'oublier. Ben non, je crois pas. Je ne crois pas que c'est une jouissance de l'anéantisation, parce que la jouissance de l'anéantisation, les exemples que l'on en a les plus convaincants et les plus évidents, c'est le mystique. Et ce n'est pas ravageant. C'est expérience de plénitude, de joie, Lacan l'évoque dans la question préliminaire. Hein. La joie est là. Il y a un autre mot, la joie est là. Enfin bref, c'est une jouissance, la jouissance des mystiques, c'est la néantisation dans l'autre. C'est une néantisation par fusion avec l'autre.
C'est pas un ravage.
Et c'est pas du tout un ravage, ça. C'est quelque chose à quoi on aspire éventuellement. Maintenant, à l'heure qu'il est, un sujet qui aspire à ça, il a des chances de se retrouver, s'il aspire trop fort, à l'hôpital psychiatrique.
Oui, c'est ça, parce que la femme ravagée, par exemple, elle n'est pas...
Elle n'est pas psychiatrisable.
Non, mais d'autant plus qu'elle est... Ce qui est ravageant, quand vous dites, par exemple, que les femmes attendent plus de subsistance de leur mère, moi, je pensais à une adolescente, et ce qui est ravageant, c'est plus cette attente aussi,
oui,
et
oui.
De rester collée dans cette espèce de réponse qui ne vient pas, mais qui viendrait peut-être, et cette attente, on attend, et c'est
ça. Il y a la demande, oui.
Oui.
Demande de subsistance.
Oui, c'est ça.
Oui.
Mais, excuse-moi, mais parce que Isée, dans...
Partage.
Oui, dans Partage de vie.
Il y a ici, mais je pense aussi à Schreiber, d'une autre façon. Schreiber qui se fait pénétrer par les rayons de la...
Ben oui, mais ben justement...
Est-ce qu'il n'est pas néantisé dans cette jouissance-là, où il est la femme de Dieu? Et quand Lacan dit dans Encore que la jouissance féminine est une autre face de Dieu, est-ce qu'on ne peut pas...
C'est pas Schreiber. Enfin, en tout cas, dans mon idée, ce n'est pas Schreiber.
Non, ce n'est pas Schreiber. Mm. Mais Schreiber est quand même décrit comme... Il est pénétré par Dieu, quoi. La femme de Dieu. Il dit, il se dit lui-même qu'il est la femme de Dieu.
Il est justement pas néantisé. Être femme de Dieu, ce n'est pas être néantisé, c'est être institué.
Dans la jouissance de Dieu.
Mais... Une jouissance de l'autre.
Oui, et c'est une jouissance de l'autre. Puisque vous dites aussi qu'elle est mystique de fusion totale, etc., est-ce que, justement, dans la fusion, dans cette fusion-là, est-ce que ce n'est pas une néantisation du sujet? Est-ce quand on dit qu'une femme perd la tête ou, je ne sais pas, dans sa jouissance...
Oui, la petite mort...
Oui, mais plus que la petite mort, c'est dans...
La grande mort des mystiques.
Oui.
Bien sûr, mais ça n'est pas le ravage.
C'est pas le ravage.
Moi,
j'avais l'impression que ça pouvait être considéré comme un ravage sublimé ou dans une certaine sublimation du corps qui... Parce qu'il n'y a plus de sujet, là. Il n'y a plus de sujet.
Justement, dans le ravage, il y a forcément la protestation du sujet. Oui. Sinon, ça ne s'appellerait pas ravage. Voilà. Hein? C'est une question de mots, là.
Oui.
Et l'expérience, on peut considérer qu'il y a peut-être une continuité d'expérience, mais au niveau des termes, le ravage suppose un sujet qui est toujours là pour protester. Mm. C'est même ça qui nous fait entendre.
Oui, d'accord. Mais s'il est ravagé, il n'y a plus de sujet.
Mais si.
C'est concret, un sujet. Alors s'il est.
Il a perdu ses repères.
Alors il nous reste à aller voir le texte de Vigile, où est-il? Alors Lucile, votre joli exemple des vierges de d'Albanie, elle me semble confirmer absolument comment le phallus est toujours chez l'homme. Puisque pour être ce qu'elle devienne dans ce que vous nous décrivez, elle pastiche l'homme. Elle s'habille en homme, elle ressemble à des hommes, elle porte des noms d'hommes.
Ouais.
Donc, si vous voulez, je connais pas cette pratique sociale, hein. Je ne m'improvise pas anthropologue, je ne connais pas, mais dans ce que vous en dites, vous dites elle transforme son nom pour le masculiniser. Pourquoi le masculiniserait-elle si on attribue au genre phallus à ce qui n'est pas masculin, vœu de chasteté, le signifiant maître du pouvoir. Bon, les récits mettent en scène des hommes, les photos montrent des hommes. Donc c'est un cas où qu'est-ce qu'on nous montre? Qu'une femme peut tenir la place d'un homme. Et c'est exactement ce que dit Lacan pour nos sociétés aussi. Hein. Il parle de l'aisance avec laquelle les femmes montrent leur qualité d'homme. Alors que chez les hommes, ils sont plus embarrassés avec leur qualité de femme.
Ce qui est intéressant dans cet exemple aussi, quand même, c'est que c'est cette histoire de vœu de chasteté. C'est-à-dire que c'est aussi l'endroit où ce qui fait la femme. Il y a cette idée que c'est du côté de la jouissance quand même. Parce que ça, par contre, c'est ce à quoi elle doit prononcer pour pouvoir être.
Le veut dire qu'elles ne seront pas l'objet d'un homme.
Oui,
voilà. Ça ne veut pas dire qu'elles n'auront pas leur jouissance.
Oui. Et d'ailleurs, dans les exemples. Oui. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Et d'ailleurs, dans les exemples, il y avait des femmes. Dans les exemples que France nous a amenés, il y avait des rapports, enfin des relations avec des femmes. Il y avait quand même beaucoup d'amour entre femmes.
Donc c'est pas leur jouissance qui est proscrite. Ce qui est proscrit, c'est le couplage avec l'homme. Être objet de l'homme. Donc voilà ce que je me disais. Et donc c'est certain que les exemples où le phallus se trouve là où le pénis n'est pas, on pourrait multiplier les exemples dans la société actuelle, dans le passé, pas seulement dans les sociétés matriarcales en plus.
Et ça vient du discours des autres, de quelque chose que la société autour considère que ce sujet-là.
C'est une fabrication du discours social.
Oui, car on se posait la question, mais ça évidemment on l'a pas, mais de parce que donc dans cet exemple, c'est les femmes qui deviennent vierges juives. On leur propose, elles peuvent dire oui, elles peuvent dire non. Et moi, je me rappelle la question, voilà, encore une fois. Et vous aviez parlé à un moment, justement, des transsexuels, en disant, justement, c'était quelque chose du côté de l'identité. C'était une question d'identité. Et que, effectivement, justement, comme vous dites souvent, on se dit psychose, mais que le signifiant est là, et que c'est un moment qu'elle récuse.
Oui.
Et moi, je me posais aussi cette question, justement, parce que c'est une discussion qu'on a pu dans le forum, c'est-à-dire que la question de l'identité, ça implique quand même un désir. C'est pas juste ces vierges jurées, c'est quand même pas juste des traits d'identification. Enfin, je veux dire que ça implique quand même toute une phase opposée. Mais bon, si pour l'instant ça n'implique rien au niveau de leur jouissance, moi j'avais l'impression que ça impliquait quand même toute une.
Ça implique toute
une collision de corps,
ça implique leur consentement.
Oui,
leur consentement, d'après ce que j'ai compris. Elles doivent donner leur consentement. Et leur consentement à cette. Rituel, je ne sais pas comment l'appeler, social, ne nous dit rien de leur jouissance.
C'est ça. Mais le désir, par contre, il est en jeu quand même dans tout ça, c'est pas rien.
Et du coup, pourquoi il n'y serait pas?
Ah non, mais c'est parce que c'est un désir qu'on a eu. Moi, je disais que c'était une question d'identité, ce choix-là.
Oui.
Plus que de traits d'identification, c'était quelque chose qui mettait en jeu l'identité, pareil que. Enfin, moi, le sentiment que chez les transsexuels. C'est au cas par cas, c'est différent pour tout un chacun, mais
c'est que ça pas que j'ai l'impression que chez les transsexuels
ça peut être quelque chose de l'ordre d'une question d'identité, mais au sens fort du terme d'identité dans la psychanalyse.
D'accord, oui. Alors vous voyez, vous avez raison de le dire, oui, je suis d'accord. L'identité a plusieurs occurrences. Il y a plusieurs occurrences. Il y a l'identité sociale. Il y a l'identité sociale. C'est pas seulement le nom qu'on porte, c'est la profession, c'est la place où on est. Et dans l'identité sociale, il y a le sexe. Hein, pour chacun. On est placé d'un côté ou de l'autre. Et puis, avec les formes d'asexuation, Lacan ne parle pas de l'identité sociale. Il parle de l'identité de jouissance de corps au niveau sexuel. Donc, les transsexuels, c'est toute la question que Lacan j'ai vu Lacan interroger une fois un transsexuel qui était très connu dans les années 70 sur la place de Paris. Lacan a beaucoup focalisé sur la question de savoir s'il était prêt à renoncer à son pénis.
Ouais.
Parce que lui se présentait comme une femme, avec toute l'apparence d'une femme, il voulait se faire nommer femme, et Lacan a beaucoup insisté pour savoir s'il était prêt à sacrifier la jouissance, et non, il n'était pas prêt, en tout cas quand on l'a vu.
Mm-hmm.
Bon. Et donc, c'est pas du tout pareil. Hein.
Mm-hmm.
L'identité, ça n'est pas une chose simple. Il y a des strates, il y a des composantes d'image, il y a des composantes de signifiant, de lien social, et puis des composantes de corps.
Mm-hmm.
Alors, on revient, excusez-moi, je ne veux pas que je vais passer la nuit avec vous, hein, absolument, mais on revient sur le choix, l'option subjective du choix.
Mm-hmm.
Alors, du partenaire ou de soi-même? Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec les transsexuels, les homosexuels, etc. À peu près tous me disent « j'avais ça, je sentais ça dans mon corps ».
Oui.
Donc c'est quelque chose d'une jouissance du corps, mais pas comme un choix qui leur est donné. C'est un choix, je vais dire, symptomatique,
oui.
Donc qui me ferait penser, excusez-moi, je n'avais pas pensé à ça avant de vous rencontrer aujourd'hui. Hein.
Oui.
Bon. Vous m'avez troublé là en parlant de.
Oh non.
Ah bah, on a bien entendu un trouble au niveau de la notion du choix subjectif. Je ne dis pas que ce n'est pas ça, mais je me repose la question. Je me demande si on ne devrait pas retravailler de savoir quelle est la part de l'inconscient vraiment réel qui intervient là-dedans, et est-ce qu'on a, jusqu'où le sujet a-t-il vraiment le choix? Je parle et de soi, de son identité en tant que femme avec un corps d'homme, ou entre homosexuel aimant un autre homme ou hétéro aimant une femme. Voilà, c'est une question que je m'excuse qui ne me paraît pas si simple de boucler comme ça.
Dire choix ne veut pas dire c'est choix à 100%. Dire choix n'implique pas qu'il n'y a pas de condition du choix.
Mmh.
Il y a toujours des conditions quand on choisit, dans toutes les situations, quand on choisit, il y a toujours des conditions du choix.
Bien sûr.
Mais il y a une part où ça n'est pas déterminé par les conditions.
Toujours, dans tout ça.
Oui, et c'est pour ça qu'on peut quand même dire choix, même s'il y a des conditions déterminantes apparemment.
D'accord. Hein?
Oui, voilà, oui. C'est ça. Bien sûr, il ne faut pas être... Sinon, on arriverait à des absurdités.
D'accord.
On arrivera à des absurdités, d'autant que, dans l'ensemble, les sujets n'ont quand même pas le sentiment qu'ils ont beaucoup de choix au niveau du sexe, au niveau de l'innocence... ça ne correspond pas à un sentiment subjectif. Hein. On a plutôt le sentiment, dans ce domaine-là, que les choses s'imposent à nous. En tout cas, beaucoup de choses s'imposent à nous. Mais en même temps, on voit aussi qu'il y a une petite marge où on peut récuser ce qui s'impose, ou l'assumer. Ou assumer ou récuser ce qui s'impose. Et là, il y a quand même un peu de choix.
C'est là qu'il y a le choix.
Ouais, ouais.
Et quand Simone de Beauvoir dit « on n'est pas femme, on devient femme », je pense aussi à une femme que j'ai connue qui m'a dit « j'ai décidé de devenir une femme ». Et je m'en rappelle. Quand elle a décidé de devenir une femme.
Ouais.
Parce que quand j'étais petit, j'étais comme un garçon manqué.
Voilà.
Il veut me contrarier.
Non, mais on ne naît pas femme, mais on est fille.
Mais on est fille.
On est fille parce que ça se dit au niveau des parents et de l'état civil. Hein. Alors on peut récuser ça. Garçon manqué, récuse. Elle est dite fille. Après, on peut décider de devenir femme. Quand Simone de Beauvoir dit « on n'est pas femme », elle veut mettre l'accent sur, justement, tous les semblants qui déterminent les sexes, les images, les symboles. C'est massif et ça change avec les époques, en plus. Ça change avec les époques, les images et symboles de la femme dans la civilisation. C'est ça qu'elle désigne.
Oui, mais c'est aussi une position de jouissance différente, quand même.
Oui.
Est-ce qu'on a fini avec non,
la
le texte
voilà.
Hein
et la deuxième partie.
C'est alors, revenons à la deuxième partie, c'est quoi déjà?
Dire tout et dire pas tout.
Le dire, fallait, c'était ça. Hein,
la fin de l'analyse avec l'horizon ouvert. Ah, oui. Ah, on peut laisser tomber.
Tu rabattes les
oui, vous vous êtes corrigé à la fin sur le point d'un dire inconsistant. Non, le dire, c'est pas le dire qui est inconsistant, c'est les dits. Hein? Le dire qui fait leur dit inconsistant. Les dits, c'est-à-dire ce qui est énoncé, qui est inconsistant, incomplet, etc. Le dire est difficilement être inconsistant. Le dire, il s'infère des dits. Donc, on n'en infère qu'un. Il peut y avoir plusieurs dits. Mais il peut y avoir des dits inconsistants qui disent une chose et son contraire. Ils disent du phallique et qui laissent la place à du pas phallique. Ça, oui, au niveau des dits. Mais vous l'avez dit à la fin.
Ouais.
Oui. Alors, pour la fin de l'analyse, oui, vous avez une hypothèse tout à fait, en tout cas, cohérente. Au fond, on a une idée dans la doxa, parce que vous savez, le fait de travailler ensemble, de parler ensemble, il se fabrique une doxa de groupe. Hein. C'est inévitable. Si vous fréquentez des groupes analytiques autres, on sent immédiatement la différence de doxa. À chaque fois qu'on invite au Forum à Paris un analyste d'une autre association, la discussion même est difficile parce qu'on sent que la base de doxa, c'est-à-dire de choses qui paraissent évidentes, qui paraissent évidentes parce que ça se répète dans le groupe comme étant comme ça, ne sont pas les mêmes. Bon. Donc, dans notre doxa, après cette... dans notre doxa, on entend beaucoup dire, en effet, que ce qui met notre doxa provient de Lacan, hein, de certains textes de Lacan tels qu'on les a lus et dépliés, que ce qui met un terme à l'association libre qui n'a pas de terme en elle-même, que ce qui dans une analyse permet d'arriver malgré le mi-dire de la vérité à trouver quelque chose qui vaille comme conclusion de l'analyse, on entend beaucoup dire que c'est le réel. Mais le réel étant un terme extrêmement polyvalent, si je puis dire, on précise en général la lettre du symptôme. Hein, la lettre du symptôme, et on a des exemples d'exposés de cas d'AE qui nous expliquent quelle est la lettre finale. Bon. Et donc, c'est cohérent avec... avec ce que Lacan a construit dans la préface, la fameuse préface au séminaire 11, où il explique en effet que le terme des embrouilles avec la vérité menteuse, c'est un terme réel, hors sens, et la lettre symptôme en serait une bonne occurrence. Donc la question que vous posez, c'est est-ce que ça vaut pour les femmes? Est-ce que ça vaut pour la patoute? Voilà.
Oui.
C'est une excellente question.
une excellente question.
Mais elle est posée dans l'école, si on regarde le dernier...
Bien sûr qu'elle est posée dans l'école. C'est pour ça que j'évoquais la doxa d'école. Voilà. Oui, elle est posée dans l'école. Et...
Excusez-moi. Oui, quand on parle de la partout, on parle de la position de jouissance, plus que de la femme qui a l'identité de femme.
Oui, mais l'idée, si vous voulez, c'est que c'est le réel de la jouissance qui commande à la vérité. Le réel de la jouissance qui commande au dit du sujet. Pas le sujet qui commande à ses dits. C'est le réel de la jouissance qui commande au dit de la vérité. Et donc, du coup, la question de savoir si la différence du fait d'être dans le tout phallique ou d'être moitié-moitié ou dans les deux, dans le phallique et dans le pas tout, ça commande à des dits différents, ça c'est un doute. Ça commande, et la question de savoir si ça a une incidence quand il s'agit de trouver le terme de cette vérité midite qui est en renvoi permanent. C'est ça la question que Lucille pose. Et la question est posée dans l'école, bien entendu.
Ça rejoint un peu la question de savoir si les femmes ont des symptômes.
C'est quand même une question, ça.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas une traduction ? Est-ce que c'est la lettre du symptôme ?
Oui, ce que j'entends pas, c'est que quand même vous disiez, c'était pendant votre séminaire cette année, quand même, que la psychanalyse elle travaille quand même avec ce qui est du côté tout.
Oui,
oui. Oui. Que la part.
Disons le problème.
Enfin, j'ai vu une femme dans une analyse quand même, elle aussi.
Le problème qui se pose, c'est que si on se pose la question des femmes dans la civilisation, c'est-à-dire dans les discours en général et dans le discours analytique, c'est que par définition, les discours n'ordonnent que de la jouissance phallique. Que de la jouissance phallique. Et en particulier le discours analytique. Donc Lacan nous dit que le phallus, c'est le signifiant du discours analytique. Qu'une analyse, ça ne produit que le un phallique. Et donc, d'où à la fin ces expressions, il y a de l'un. Bon. Et donc, à partir de là, évidemment, on se dit, mais alors, est-ce que l'analyse, qu'est-ce que ça fait de ce qui n'est pas phallique ? Qu'est-ce que ça fait pour des êtres qui ne sont pas tout dans le tout phallique? Est-ce que ça les masculinise? Il faut bien dire que le mouvement analytique avait conclu à l'inverse, que l'analyse féminisait, même les hommes. Donc, mais vous voyez la question, c'est ça, le patou, il est par définition exclu de tout ce qui est ordonné de la jouissance réglée par le langage. Dès qu'il y a du signifiant, le patou n'y est pas, en quelque sorte. Bon, oui. Alors, on a un problème dans lequel il faut s'avancer doucement.
et en même temps, j'ai l'impression comme ça que ça tourne comme une spirale. Parce que vous parliez de la question du fait que l'analysant, au départ, il arrive effectivement en quête comme ça d'un signifiant qui dirait quelque chose, et donc il rentre dans cette course de la vérité mythique, et puis quelque chose qui va tomber, etc. et vous reveniez, après avoir parlé de tout ça, vous reveniez avec la question de la femme comme se situant du côté la femme babarée et du côté du coup, alors, à la place de la vérité. La vérité,
oui.
Et on a l'impression comme ça que ça.
Mais la vérité, ça boucle. La structure de la vérité n'est pas toute. Oui. C'est pas moi qui le dis. Évidemment. La vérité midite, ça relève du pas toute. C'est pour ça que Lacan peut dire la seule façon de parler de la femme sans la barrer, c'est de voir que c'est la vérité. Donc la vérité a la même structure que le patou. C'est une structure d'infinitude. Un, est-ce qu'il y a un qui fait buter de fin à la série des un? Non. Donc pour la vérité, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez formulé, aperçu quelque chose de vérité, vous êtes bien content, vous avez attrapé quelque chose. D'ailleurs, c'est utile, il faut le faire. Mais après, La parole continue et le sujet expérimente l'impuissance à conclure l'association libre, quand même. Alors qu'il pense avoir fait le tour de tout ce qu'il pouvait dire, de tout. Bon. Donc, ça, c'est une structure qui s'expérimente dans l'analyse. Et donc, la question est effectivement de qu'est-ce qui permet d'arrêter ça. Est-ce qu'il y a une différence entre, je ne sais pas si on peut dire homme-femme, parce qu'il faudrait peut-être prendre ça au cas par cas, au total.
Et puis, oui, je me souviens qu'à Bordeaux, vous, en réponse à Marchetrose, vous avez dit que s'il y a des dits patous qui viennent dans l'analyse, l'analyste ne peut que les accueillir.
Ça n'existe pas, les dits patous.
Ouais, non, mais je suis toujours très approximative.
Mais c'est pas vous qui êtes approximative, là. On essaie de comprendre ce que Lacan a construit. Bon, on essaie de comprendre ça. Les dits sont articulés en signifiant. Vous ne pouvez pas parler d'un dit patou.
Oui, le dire, voilà. Pas tout. S'il y a un dire, pas tout.
D'accord, qu'est-ce qu'il nous dit de cette autre jouissance non phallique? C'est qu'elle n'est pas causée par un objet A. Donc quand j'entends un collègue qui me parle de la jouissance autre et de son objet A, je dis, bah, on ne parle pas tous de la même chose. C'est tout ce que je dis. Hein? C'est la difficulté. Alors, ceci dit, quand même, j'ai une idée sur la question de la fin que j'ai exposée au dernier cours, mais qui se place, que j'ai pas placé, en tout cas, c'était pas le total de la question, mais j'ai l'idée que la fin de l'amour te transfère. Parce que, attendez, dans l'analyse, il y a les dits et puis il y a l'amour de transfert. Il y a l'investissement de l'objet analyste. Et au fond, une analyse est finie quand réellement il n'y a plus d'investissement de l'objet analyste. Ça, c'est la fin réelle, si je puis dire. Alors, quelqu'un peut arrêter son analyse alors que l'investissement de l'objet analyste n'est pas suspendu. Ça, on connaît. C'est fréquent. Et donc, l'idée que nous avons, c'est que l'arrêt de l'analyse, ce serait bien que ça coïncide. Le mieux possible, ce serait que l'arrêt de l'analyse coïncide avec l'arrêt de cet investissement. C'est la thèse de Lacan, vous pouvez voir si vous lisez L'étourdi. La fin du deuil de l'objet A, qui est devenu l'analyste. Hein? C'est ça la fin. Le deuil, c'est quand l'objet n'est plus investi. Donc, il tombe, mais il n'est plus un objet pour vous. C'est le problème des places qu'on évoquait tout à l'heure, des places que la subjectivité analysante réserve à l'analyste. Alors j'ai perdu le fil. Ah oui, oui, donc la fin de l'analyse, c'est ça, c'est quand il n'y a plus d'investissement de l'objet analytique. Et donc la question, il me semble que si on prend ça de ce côté-là, on perçoit plus facilement des différences hommes-femmes dans la clinique. Parce que c'est pas parce que, d'abord ça se constate. Ça se constate. comment on peut l'expliquer peut-être justement parce que l'homme, dans son rapport à l'objet A, dans le rapport entre S barré et l'objet A, qui au fond est l'assise de sa subjectivité, il se trouve que l'objet A, il a des successeurs possibles. Hein, un objet A peut en remplacer un autre beaucoup plus facilement que pour une femme. Et donc, je pense que de ce côté-là, on pourrait chercher à s'expliquer quelques différences, peut-être. Et même la chute du transfert. C'est la chute du transfert. Qu'est-ce qu'on appelle la chute du transfert ? C'est-à-dire que ce que Lacan appelle la réduction de l'analyste à l'objet A. C'est ça la chute du transfert, sa réduction à l'objet A. Il était grand A, idéalisé, comme sujet supposé savoir l'analyste au départ. Bon. Et il y a un moment où dans l'analyse, au fond, cette illusion, ce mirage... de l'analyste comme sujet supposé savoir tombe. Et donc, qu'est-ce qu'il reste de lui ? Il reste quand même que l'analysant, il reste attaché à son analyste. Mais il est attaché à l'analyste en tant qu'objet A. C'est ce que Lacan appelle la chute du transfert. Et la phase finale de l'analyse, c'est le temps, comme il dit, de deuil. Le temps qu'il faut pour faire le deuil de cet objet. Alors, c'est un fait que les hommes, c'est quasiment au quotidien qu'ils substituent l'objet A au grand autre. Puisque c'est dans leur vie sexuelle même que le partenaire vaut comme objet A. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas, ça ne veut pas dire qu'ils idéalisent pas, c'est le contraire, c'est les hommes qui idéalisent les femmes. La littérature amoureuse, d'ailleurs, a souvent été écrite par les hommes. Mais si on suit Lacan, quand même, le partenaire pour un homme vaut comme objet A, dans son fantasme et dans sa réalisation sexuelle. Donc c'est du quotidien pour lui. De faire chuter l'autre au profit de l'objet. Alors après, dans l'analyse, ça ne peut pas ne pas se retrouver. C'est tout.
Il y a moins de jeu.
Non, mais c'est une hypothèse que j'ai. C'est une hypothèse que je vais essayer de travailler un peu pour qu'on sorte un peu de l'histoire de la lettre finale.
Parce que aussi, la question, quand c'est autre chose, c'est pas la question, mais la verre, quand il dit des verres, qu'on a la chance de voir apparaître dans le réel l'objet
de leur existence.
On dit cette année hein, que les mères, finalement, au final, alors qu'ils posent la question, au final, ils disent c'est du côté tout phallique. Mais avec cette spécificité quand même, de voir apparaître dans le réel l'objet. Et alors, qu'est-ce que ça change ?
Ben, vous lui demanderez.
C'est pas rien.
C'est pas rien.
C'est ça. C'est bon.
Oui, non, mais vous avez raison, juste un mot là-dessus, c'est que c'est vrai que toute la pensée sur la maternité était pensée comme... Ah oui, du côté du tout phallique, il y a la mère aussi. Il y a la mère... Puisque depuis Freud, l'enfant substitue phallique. L'argent de le mora substitue phallique. Et donc, c'était la thèse. Quand Lacan souligne cela, il dit les femmes ont cette. Je ne sais pas s'il dit pas cette chance, ou c'est le cas unique. Enfin,
privilège.
Ce privilège. De voir apparaître l'objet dans le réel, c'est-à-dire pas dans le fantasme, dans le réel, ça change un petit peu le tout phallique.
C'est ça.
Freudien, voilà, de dire ça.
Et du coup, est-ce que les questions justement du deuil, un peu de fin d'analyse, plutôt que, parce que des fois, quand on entend de quelque chose de différentiel, en évoquant le pas tout, est-ce que c'est pas plutôt à chercher de ce côté-là ? C'est-à-dire que quand même, c'est un deuil. Comme vous dites, l'homme, c'est du quotidien de passer de grand A à petit A. C'est, alors que c'est un deuil un peu plus réel quand même. C'est pas tous les jours qu'on voit surgir dans le réel. Que déjà il était midi et on s'est arrêté.
Oui, alors que la pause déjeuner était très longue et l'organisation dont j'ai fait partie n'a pas pris conscience. Enfin, il y a eu des demi-heures qui ont glissé ici ou là. On avait l'intention aussi de manger dehors. Puis finalement, on a fait le lunch et on n'a plus regardé les affiches pour se dire est-ce que ça colle avec cette organisation du repas. Et bon, voilà. Donc,
c'était pas pour.
L'organisation
avait été fournie.
Non, c'est vrai.
Mais je ne sais pas si on a encore le courage, alors qu'il est, de reprendre le débat du matin. Je crois qu'on est un peu fatigué. Donc, il faut se donner rendez-vous à Barcelone pour continuer.
C'est juste. Merci beaucoup.
En tout cas, merci de votre contribution ressuscitante.
Et merci à tous aussi de vous être déplacés.
Et de votre patience, c'est long aussi.
Et à bientôt, oui, l'année prochaine en tout cas.
Il faudrait multiplier des rencontres comme ça. C'est bien quand même de multiplier les rencontres entre les forums. Oui. Ils n'empêchent pas chaque forum de travailler dans le milieu là où il est, mais multiplier les rencontres, ça apporte toujours un courant d'air quand même.
On y travaille, mais de pas de manière officielle.
Bon, très bien.
Je pense en tout cas. Oui.